Sucker punch, puis bingo, j'ai perdu conscience. Mais par après, quand on repense à ça, là, je me lève plus la nuit pour vérifier les fenêtres puis regarder autour de la maison, voir s'il n'y a pas personne. Là. Mais j'ai un sacré bout de temps où j'ai fait ça. Là. Puis ça, c'est épuisant, ça. Ça, c'est une torture de vivre ça. Là.
Après l'agression, Ron Pugh fait tout ce qu'il peut pour se rétablir physiquement. 3 mois plus tard, il reprend du service derrière le volant de...
Je veux pas t'embêter, mais on parle encore de ça avec l'environnement. Là. On en parle là-dedans. Là.
Oui, oui, absolument. Donc, on a des peurs. Dans certains cas, elles sont justifiées, tu comprends?
Après, s'il va me défoncer le crâne pour $3.50. Quelques mois plus tard, il quitte le RTC pour une retraite anticipée à l'âge de 59 ans.
Parce que là, je ne dormais plus la nuit. Là. Et là, ça devenait pas sécuritaire de prendre le volant. Là. J'en avais comme trop plein de ce qui arrivait, puis je voulais simplement fuir. Il y avait trop d'émotions. Là. Je devais penser d'abord à ma survie.
Pourtant, l'homme est costaud. Il a fait des arts martiaux, il a servi dans les forces de réserve de l'armée canadienne. Mais aujourd'hui, Ron Pugh est un homme tourmenté par une faille qui s'est creusée en lui.
Tout est stressant. Le téléphone sonne. On fait un saut. Comprenez-vous cette espèce de crainte, là, la peur de quoi? Quelqu'un va vous dire, t'as peur de quoi? Mais je ne sais pas de quoi j'ai peur, mais j'ai peur de tout en même temps. Là. Puis là, vous vous dites, est-ce que cette nuit, il y a quelqu'un qui va venir tirer un cocktail Molotov sur la maison? C'est maximum 2 minutes et la maison complète est en feu. Là. Mais c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui vit pas ça.
Au mois de mars dernier, 2 ans après l'agression, le stress intense a provoqué chez lui 2 infarctus. Pour obtenir des soins psychothérapeutiques, M. Pugh s'est adressé à l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. On l'a renvoyé à la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail, mais la CNESST a refusé sa demande. La présidente du syndicat des chauffeurs d'autobus du réseau de transport de la capitale, Hélène Fortin, estime qu'on minimise les conséquences des agressions.
Parce que le choc post-traumatique, là, il existe réellement. Là. Et c'est difficile à prouver. La CNESST, il faut travailler fort, faut contester. Même à l'interne, c'est pas un post-traumatique, puis il y a comme de la banalisation.
Au réseau de transport de la capitale, le nombre de chauffeurs agressés a doublé au fil des dernières années. À Québec, en 2019, 45 cas d'agression physique, verbale, menaces de mort, intimidation et rage au volant. C'est pire à Montréal. En 2019, 156 agressions physiques et verbales, là aussi en augmentation. Pour Hélène Fortin, du syndicat des chauffeurs du RTC, toutes les agressions doivent être prises au sérieux.
Je trouve ça particulier parce que moi, j'ai vu des gens ici, des armoires à glace, qui ont eu une menace de mort. Puis qu'il était effondré là, quand on est arrivé sur les lieux pour s'occuper de la personne, complètement effondré.
La montée de la violence dans les transports publics inquiète les 9 sociétés de transport du Québec et les syndicats. Ils veulent comprendre et prévenir les agressions et les chocs post-traumatiques. Au sein de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail, ils ont décidé que ces 2 questions étaient prioritaires. Benjamin Reed Soucy est conseiller en prévention pour cette association paritaire.
Donc, on veut travailler en amont. Donc, la prévention des agressions. Quelles sont les causes des agressions à la source? Et ensuite, nous savons qu'il va quand même y avoir, malheureusement, des agressions auprès des chauffeurs. Donc, à ce moment-là, on doit quand même travailler sur le trouble de stress post-traumatique qui est le après.
Donc, mieux comprendre les phénomènes et identifier les meilleures pratiques. Mais entre-temps, le chauffeur à la retraite, Ron Pugh, est laissé à lui-même.
Mais je me dis peut-être que le temps, tu sais, on dit toujours le temps parfois arrange les choses. Et je me dis peut-être qu'avec le temps, je vais être capable de... Mon Dieu, j'aurais pas voulu vivre ça.
C'était un reportage de Claude Brunet à Québec qui posait, ma foi, d'importantes questions. Et je précise que la direction du réseau de transport de la capitale que vous n'avez pas entendu dans ce reportage a refusé notre demande d'entrevue. Le woofing, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être pas. En tout cas, je peux vous dire que c'était certainement pas mon cas ce matin, mais j'ai appris depuis. Chaque année, plus de 4000 woofers viennent travailler bénévolement dans les fermes biologiques du pays en échange du gîte et du couvert. C'est une aide qui est particulièrement utile pour les entreprises en démarrage qui souvent, vous le savez, n'ont pas assez d'argent pour embaucher beaucoup de personnel. Cette année, les woofers, bon, je peux pas m'empêcher de rire un peu toutes les fois que j'ai dit ça, les woofers n'ont pas pu passer la frontière et plusieurs fermes en constatent les conséquences. Le reportage là-dessus d'Alexis Gacon.
Véronique Alexandre accueille des woofers dans sa pépinière de Rodden depuis 7 ans. Elle en a déjà hébergé près de 300 en provenance d'une trentaine de pays.
Au départ, c'est sûr que l'entreprise était plus petite, fait que ça nous permettait de faire beaucoup plus de projets. T'sais, on n'aurait pas pu payer des salariés pour faire ça à ce moment-là. Fait que le woofing, pour nous, c'est vraiment, oui, ça apporte une main-d'œuvre. C'est surtout de donner l'expérience, surtout à des jeunes qui veulent vivre une expérience différente, qui veulent visiter un pays sans avoir à payer tous les frais de, t'sais, d'hôtel. Les gens sont logés, nourris en échange de leur travail. C'est un 8 heures par jour, mais t'sais, il y a des grandes pauses qui s'étirent plus longtemps que, exemple, les pauses des salariés. Là. On fait vraiment des entrevues Skype avec chaque personne avant qu'elle vienne, avant de l'accepter, pour que la personne comprenne vraiment qu'elle vient pas ici pour être dans une auberge de jeunesse.
Pour venir au pays en tant que woofer moins d'un mois, pas besoin de permis de travail. Pour ceux qui comptent rester davantage, il en faut un. Avec la pandémie, ils ne sont plus les bienvenus. Les services frontaliers ne considèrent pas leur travail comme un motif essentiel pour entrer au pays. Généralement, Véronique Alexandre accueille une dizaine de woofers étrangers sur sa pépinière, mais sans eux, cette année, elle doit mettre certains travaux sur pause.
Ben, on en avait plein de planifiés à partir du mois de mars, qui là, ben, tranquillement, ça l'a annulé. C'est certain qu'il y a des projets qu'on aurait aimé faire qui se feront pas cette année. Par exemple, des agrandissements de vergers, des plantations.
Dans la pépinière, les woofers font partie intégrante de la vie de la ferme.
C'est le potager. Ça prend comme une à deux personnes à temps plein juste pour s'occuper du potager, pour nourrir les personnes qui sont ici.
Les woofers étrangers sont donc aux abonnés absents, mais quelques Québécois sont venus prêter main forte. Laurence Gagnon avait envisagé de répondre à l'appel de Québec pour travailler dans les champs et recevoir un salaire, mais elle a préféré vivre l'expérience du woofing.
J'avais envie de me sortir de la ville. C'est pas un endroit où je suis vraiment confortable. Puis c'est aussi pour acquérir de l'expérience que j'ai vraiment voulu aller sur une ferme. Puis... L'occasion s'est présentée, alors je l'ai saisie, puis on est bien. Puis j'ai pas envie vraiment d'être rémunérée tant que ça, j'ai juste envie d'acquérir de l'expérience puis d'être bien dans ce que je fais. Alors j'ai pas fait du gros travail physique, t'sais, c'est un peu de la taille d'arbre, puis c'était un peu relax. Mais je sais qu'il y a des journées où c'est plus difficile, surtout avec les températures, s'il mouille beaucoup, s'il fait du gros soleil chaud.
Pour Carole Reed-Forget de la ferme Cabru en Montérégie, la main-d'œuvre employée et les bénévoles d'ici ne peuvent pas pallier l'absence des woofers étrangers qu'elle accueille chaque année. Face au manque de main-d'œuvre, elle ne comprend pas que le Canada ne leur ouvre pas ses portes.
C'est problématique, parce que ça devrait être beaucoup plus reconnu que ça. C'est mondial, hein. Ça fait des années, là, que ça existe. Et nous, en ce moment, on est brûlés, là. On est deux dans le champ. Comme on est juste deux, on a dû abandonner des récoltes.
L'organisme Woof Canada dit travailler pour que le woofing soit considéré par Ottawa comme un service essentiel, mais pour l'instant, sans succès.
Un service essentiel, le woofing. Un reportage d'Alexis Gacon à Montréal. Et n'allez surtout pas dire qu'on vous apprend rien dans le cadre de cette émission. Et c'est aujourd'hui le lancement du compte à rebours en vue des Jeux de Tokyo de 2020 qui ont été reportés dans un an exactement. Oui, on sera en 2021, mais ce seront quand même les Jeux de 2020. Donc, une cérémonie numérique a été diffusée sous le signe de la résilience et de la solidarité en ces temps difficiles. Et pendant ce temps, au pays, les athlètes et la délégation canadienne font ce qu'ils peuvent pour se préparer en espérant que les Jeux pourront bel et bien avoir lieu. La journaliste Diane Sauvé est avec nous pour en parler. Diane, l'été aurait été bien différent pour les 11 000 athlètes canadiens qui devaient aller au jeu. Vous en avez rencontré qui ont le cœur gros.
Absolument. C'est une semaine difficile, éprouvante pour ces athlètes-là, de petits deuils un à un. Je pense par exemple à Antoine Valois-Fortier, qui est médaillé olympique en judo, qui s'apprêtait à vivre ses troisièmes Jeux. Il n'est toujours pas qualifié. Et pour lui, ça peut paraître banal pour certains, mais pour lui, l'entrée au stade olympique, les cérémonies d'ouverture, c'est un grand moment. Il faut savoir que les athlètes en judo n'ont pas souvent l'occasion de performer. En fait, n'ont jamais l'occasion de performer devant des grands stades bondés. Pour Joëlle Bekazi, par exemple, qui est une joueuse de water polo, ça fait 15 ans qu'elle tente de se qualifier, elle et l'équipe, pour les Jeux olympiques. L'équipe a raté 3 fois sa qualification, la 4e. L'été dernier a été la bonne, puis la pandémie a tout arrêté. Demain, ça aurait été son baptême olympique à 33 ans. Mmh. Alors, c'est vraiment une semaine difficile à traverser. Je vous invite à écouter Joëlle Bekazi, mais auparavant, Antoine Valois-Fortier.
Ben c'est certain que ça me fait un petit pincement au cœur. Là, j'ai 30 ans en ce moment, donc j'en ai plus de faits qui m'en restent à faire dans mon cas. Donc, j'avais une très bonne saison. Le momentum était de mon côté. J'étais prêt pour cet été.
Il n'y a pas de mots. J'ai tellement eu de crève-cœur dans toute ma carrière que là, c'est comme un autre crève-cœur.
un rendez-vous possiblement, on va l'espérer que non, mais possiblement raté. Mais il y a aussi des rendez-vous avec l'histoire, notamment pour les athlètes de planche à roulettes qui devaient faire son entrée, en tout cas, au jeu cette année.
Et il y a Annie Guglia de Montréal, 3 fois championne canadienne, qui tentait à 29 ans de se qualifier. Ça s'annonçait bien, elle performait bien. Et il faut dire, à 29 ans, le temps presse. Les jeunes poussent. La deuxième mondiale a 12 ans seulement. Alors, cette année de plus pourrait faire une différence pour Annie Guglia, que je vous invite à écouter.
En skateboard, c'est pas à 30 ans que t'as ton pic de performance, si je peux dire. Fait que c'est sûr que pour moi, ça rajoute une année d'incertitude, tu sais, par rapport à ça. Puis de, tu sais, potentielles blessures où on sait jamais. T'sais, en ce moment, j'étais en forme. Tu sais, j'avais très confiance mentalement, physiquement. Tout allait bien.
Diane, les Jeux pourront avoir lieu s'il y a un vaccin. Mais on sait que ça prend du temps et c'est possible qu'il n'y en ait pas l'année prochaine de vaccin. Est-ce que il y a des athlètes qui réfléchissent à cette possibilité-là bien réelle qu'il n'y ait tout simplement pas de Jeux en 2021?
Ah, tout à fait. Même si tous les athlètes et tous les bons athlètes vont nous dire qu'il faut rester concentré sur l'objectif et il faut se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Mais c'est sûr que le risque est réel et je pourrais vous dire aussi que c'est cruel comme risque, mais il faut le dire, le président du comité organisateur de Tokyo a dit, pas plus tard qu'hier, que s'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de jeu. Et la chef de mission du Canada, Marnie McBeal, elle se fait rassurante. Bien sûr, elle fait sa capitaine Canada, comme on peut dire. Elle garde espoir en considérant tout ce qui a été accompli au cours des 5 derniers mois, mais elle l'avoue, même s'il y a un vaccin, il faudra des mesures sanitaires importantes lors des prochains Jeux olympiques. Les athlètes, je le disais plus tôt, restent concentrés, mais savent très bien qu'ils pourraient peut-être devoir renoncer à jamais aux Jeux. Là-dessus, écoutons Joël Bécassy.
Ça va me détruire un peu, ça va être très difficile pour me ramener, remonter, mais j'aurais pas de regrets. Vraiment, j'ai tout fait. Toute notre équipe a pris la retraite pas mal. Moi, j'ai continué pour l'amour du jeu, pour ce rêve qui est juste tout le temps là, puis je peux pas arrêter jusqu'à temps que j'arrive.
Alors, ça chamboule les plans et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, on a repris le sport, mais la bataille n'est pas gagnée.
Non, et on espère que ces Jeux pourront bel et bien avoir lieu pour ces athlètes qui y mettent tant d'efforts et d'énergie. Diane Sauvé à Montréal, merci.
Merci à vous.
Ici Radio-Canada Première, du cœur aux idées.
Les premiers êtres humains pourraient bien avoir mis le pied en Amérique 2 fois plus tôt que ce qu'on croyait. Oui, 2 fois plus tôt. C'est du moins que ce que suggèrent 2 récentes études menées au Mexique par plus d'une 30aine de scientifiques et publiées hier dans la revue Nature. Ils ont trouvé des 100aines de fragments de pierre qui constituent, selon eux, des outils forgés par l'homme il y a cela plus de 30 000 ans. Mais déjà, cette hypothèse est contestée par d'autres spécialistes du peuplement de l'Amérique. J'en discute avec notre journaliste Nancy Caouette. D'abord, Nancy, quelle est actuellement, en tout cas, l'hypothèse la plus répandue sur le peuplement de l'Amérique?
Il existe un consensus sur le fait que l'homme est arrivé en Amérique il y a environ 15 000 ans. Il serait parti de l'Asie du Nord-Est et aurait traversé la Béringie. Ce territoire, la Béringie, s'étendait à l'époque de la Sibérie jusqu'au fleuve Mackenzie dans les territoires du Nord-Ouest. On y trouvait notamment de la faune et de la végétation, ce qui en faisait une sorte de refuge pour les humains à une époque où l'hémisphère nord était recouverte de glace.
Oui, le fameux pont de glace, là.
Voilà. Mais c'était plus qu'un pont, c'était vraiment un territoire. Cette hypothèse est très solide puisqu'elle est basée vraiment là, sur des preuves génétiques, des restes humains et des artefacts trouvés sur des sites archéologiques.
Nancy, les récentes études réalisées au Mexique font reculer l'arrivée de l'homme d'au moins 15 000 ans.
Oui, la principale étude menée par l'Université autonome de Zacatecas a été réalisée dans une grotte au Mexique, donc dans le centre du Mexique. Les scientifiques y ont trouvé plus de 2000 roches qui constituent, selon eux, des outils. Plus de 200 d'entre elles étaient recouvertes de sédiments qui les ont protégées. Les scientifiques ont retrouvé des fragments de plantes et d'animaux qui, selon une datation carbone, datent d'au moins 30 000 ans, voire 33 000 ans. La deuxième recherche, elle, constitue plutôt un recensement d'échantillons prélevés sur une 40aine de sites un peu partout en Amérique du Nord et qui laisse croire en la présence d'humains sur le continent il y a entre 27 000 et 19 000 ans et qui vient vraiment confirmer la première étude.
Mais les résultats de ces nouvelles études ont déjà été contestés.
Oui, tout à fait. Même dans un article de Nature aujourd'hui, plusieurs scientifiques disent en fait que ce n'est pas si évident sur les photos de voir qu'il s'agit bien d'outils et non de fragments de roches qui auraient été taillés par la nature. L'archéologue spécialiste du peuplement d'Amérique, Laurence Forget-Brisson, relève aussi une autre faiblesse importante de l'étude. On peut l'entendre.
Ce qui est dommage aussi, puis qu'est-ce qui rend cette étude-là un peu moins sûre, c'est qu'ils ont des traces de beaucoup, beaucoup d'espèces animales et végétales, mais il y a aucune trace humaine non plus dans l'ADN ancien qui est préservé. Puis il y a pas non plus, il y a pas de foyer, tu sais, ce qu'on pourrait s'attendre dans une grotte, là, il y a pas de, tu sais, un rond de feu, là, c'est préservé très, très, très souvent. Puis là, ben, il y en a pas.
Donc, la doctorante de l'UQAM souligne toutefois que le matériel prélevé sera réévalué. Donc, c'est vraiment le début de l'étude.
Et il faut le dire, Nancy, il y a eu au cours des dernières années plusieurs autres études qui laissent croire que l'homme serait arrivé plus tôt en Amérique.
Oui, des dizaines de recherches un peu partout en Amérique, au Brésil, en Amérique du Nord, en Alaska, qui montrent que l'homme serait arrivé vraiment à l'âge ancien, c'est-à-dire il y a plus de 16 000 ans. Au Canada, il y a notamment les grottes du poisson bleu situées au Yukon qui présentent des traces, selon certains scientifiques, de l'homme sur des ossements. Toutefois, l'archéologue Laurence Forget-Brisson, qui effectuait des fouilles en Alaska, affirme que ces études sont très importantes puisqu'elles apportent des nouvelles données, mais on n'y a jamais relevé d'ADN humain ou des ossements humains.
Ces sites-là sont, ils comportent tout le temps une dimension un peu problématique dans leur contexte, dans l'association entre les artefacts témoignant de la présence humaine et les résultats de datation. Donc, c'est pour cette raison-là que le doute persiste toujours, puis que les archéologues, et je m'inclus dans ce groupe-là, on est plus réticent à intégrer ces sites-là anciens dans les modèles de peuplement.
J'ai demandé à Laurence Forget-Brisson si elle croyait qu'on devait modifier la date du peuple en Amérique de nos livres d'histoire prochainement, si on pouvait la modifier. Voici sa réponse.
Les méthodes changent aussi. Là. Dans les années 70-80, c'était à appel, puis on tamisait pas. Puis, mais là, tout est gardé, tout est numéroté, tout est analysé. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de plus de détails. Là. Fait que je pense que dans les prochaines années, c'est sûr que l'histoire va changer. Là.
Comme quoi la préhistoire en Amérique continuera de s'écrire dans les années à venir.
Ah, c'est lent la science. Nancy Caouette, merci beaucoup.
Au revoir.
September, on the shores of Lake Erie in southern Canada, a monarch butterfly is fueling up on nectar. She has never flown more than a few hundred meters in her life. But now she is heading out over Lake Erie, which is 100 miles across. This is just the first leg of one of the world's greatest animal migrations.
One of the world's greatest animal migrations. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais à toutes les fois que j'entends David Attenborough, ça me met de bonne humeur. C'est évidemment la voix du naturaliste de la BBC et qui parlait dans cet extrait de la migration des papillons monarques, justement. Faudra pas vous surprendre si, à compter de demain, vous voyez des citoyens qui se mettent à littéralement compter des papillons ou des chenilles. C'est parce qu'entre le 24 juillet et le 2 août se déroule le blitz de suivi international du papillon monarque. Et quand on dit international, ça veut dire au Canada, aux États-Unis et au Mexique. C'est un bel exemple, ça, de science participative. Pour en parler, nous recevons pas un, mais deux invités. Tout d'abord, Alessandro Dieni, qui est le coordonnateur du programme Mission Monarque. Bonjour à vous, Alessandro.
Bonjour.
Et Marianne Mechner, étudiante à la maîtrise au département de sciences végétales à l'Université McGill. Ses études portent précisément sur le papillon monarque. Bonjour à vous également.
Bonjour.
Je me tourne tout d'abord vers vous, Alessandro. Expliquez-moi en quoi consiste ce blitz d'observation.
Oui, eh bien, ce blitz, c'est la collaboration de trois pays et de ces organisations qui organisent et font la promotion de la surveillance de l'asclépiade et du partage des données d'observation de l'asclépiade avec, bien certainement, des monarques, on le souhaite, sur ces plans-là. Donc, des programmes comme ça qui, durant toute l'année, on fait la promotion de la science participative derrière tout ça pour prendre des observations, les partager. Mais on encourage les personnes à se mobiliser davantage durant ces dates-là. Donc, c'est du 24 juillet au 2 août et ça, c'est partout en Amérique du Nord.
Bon, vous avez mentionné l'asclépiade. Pour des gens, ça peut être assez nébuleux. C'est une plante. Pourquoi faut-il y accorder davantage d'attention?
Bien, c'est la seule plante sur lequel les chenilles de monarque peuvent s'alimenter. Le papillon, lui, peut s'alimenter sur différentes fleurs de plantes riches en nectar. Toutefois, la larve, elle, la chenille du papillon monarque, s'alimente uniquement de l'asclépiade. Donc, en observant ces plants-là, son site, là où il va pondre des œufs et où la larve va se développer, faut voir si le succès reproducteur du papillon est intéressant à nos latitudes. Et c'est en observant cette plante-là. Donc, est-ce qu'il y en a de présent? Est-ce qu'on a une grande quantité de monarques qui l'occupent aussi? Donc, tout ça, ça fait partie du programme pour mieux connaître les sites de reproduction du monarque à nos latitudes.
Bon, mais la question fondamentale, c'est aussi de savoir pourquoi c'est important de les suivre, ces papillons monarques-là. J'espère que c'est pas juste parce qu'ils sont beaux.
Non, bien certainement, il y a d'autres raisons. C'est certain, c'est un espèce qui est cher à nous parce qu'il est très charismatique. Et c'est aussi une espèce, malheureusement, qui est menacée. Mais en portant attention à une espèce comme ça, de la sorte, on s'attend pas seulement à celui-ci, mais à toutes les autres espèces qui vont occuper le même territoire, le même habitat. Donc, c'est une des raisons pourquoi il a beaucoup diminué dans les 20 dernières années, là, de plus de 80%. C'est parce que ces zones de reproduction, donc les endroits où on retrouvait de l'asclépiade, ont été détériorées. Non seulement ça, il y a aussi moins de plantes riches en nectar, donc les plantes nectarifères. Donc tout ça, c'est un environnement aussi où plein d'autres insectes, dont les pollinisateurs qu'on aime bien parler aussi, là, se retrouvent avec des environnements moins intéressants pour eux. Donc en observant le monarque, on l'aide, lui, clairement, mais on aide aussi un environnement à se reconstruire, si on veut.
Donc c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie, en quelque sorte?
Exactement, une espèce qui va en aider plusieurs autres si on s'attarde à lui et qu'on fait attention à son environnement.
Et les inventaires, on les a vus, ils ont fluctué au cours des dernières années. On en est où, là?
Pour nous, à nos latitudes au Canada, là, c'est seulement depuis 4 ans. C'est en constante croissance, là, je dirais même exponentielle. On est vraiment très, très content de comment ça se déroule. On veut continuer. On voudrait éventuellement faire comme un peu on fait au Mexique. Donc, à l'hiver, lorsque les monarques vont au Mexique pour hiverner, les scientifiques de la région observent les monarques, ils délimitent l'espace que ça l'occupe pour pouvoir, lorsqu'ils hivernent, pour estimer leur population. Mais là, on pourrait faire la même chose à nos latitudes durant l'été avec un blitz comme celui-là, là, avoir une photo instantanée de qu'est-ce qui se passe à ce moment précis pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe avec la population du monarque.
Une photo instantanée, donc savoir un peu qu'est-ce qui se passe à un endroit et à un moment donné. Et ça, Marianne, c'est un peu ce que vous faites aussi avec vos études sur le papillon monarque. L'année dernière, vous avez passé une bonne partie de l'été à recenser ces papillons sur la rive nord du lac Ontario. À quoi ça ressemble une journée typique pour vous?
Oui, c'est incroyable. C'est un travail exceptionnel. Je l'aime beaucoup. Mais je prends les observations que les citoyennes ont faites sur le site web et je prends un échantillon et je les visite. Et je note les météos, toutes les plantes, la connaissance de qu'est-ce qu'il le monarque aime. Est-ce qu'il a une communauté de plantes qu'il préfère? Est-ce qu'il y a une région? Est-ce qu'il a des autres besoins? On connaît qu'il a besoin de l'asclépiade, mais est-ce qu'il y a des autres choses qui on peut améliorer la situation pour les papillons?
Donc, ça doit demander quand même un examen assez méticuleux des lieux.
Oui, oui. J'arrive à chaque place et je prends note de toutes sortes de plantes et on faut essayer de faire une comparaison où la place qu'il les aime, la place qu'il les trouve pas, est-ce qu'il préfère les places côté de l'eau, c'est peut-être une indication. Et pour compter les plantes et identifier toutes les différentes plantes, c'est incroyable. Et les différentes places vous êtes trouvées dans les jardins urbains à Toronto, par exemple, puis des gros prairies naturelles dans la campagne. Si tu plantes les asclépiades, elles arrivent. Elles utilisent beaucoup, beaucoup de différents types de terrains.
Est-ce qu'il faut que vous comptiez littéralement les œufs ou les chenilles ou les chrysalides que vous pouvez retrouver dans ces plantes-là? Est-ce que ça va jusque-là?
Oui, oui, c'est moi et ma fille m'a aidé, pauvre elle. Oui, il faut plier parce que les papillons, ils pondent les œufs en bas de la feuille. Et les regarder, quelquefois, c'est 400 plantes à une site. Oh. Et ils tournent chaque feuille pour regarder s'il y a des chenilles ou des œufs.
OK. C'est beaucoup de travail.
Oui, oui.
Et dites-moi, notre technicien Dominique me disait juste avant qu'on entre en onde qu'il a déjà vu, lui, des arbres où pouvaient se trouver des milliers de papillons monarques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Ben, pas en, c'est plus en Mexique, dans l'hiver. Mais ici, quand ils commencent à migrer, dans le côté nord de l'Ontario, parce que je pense Il y a des indications qui utilisent le lac comme un guide, un peu comme une main. Si vous avez une plante nectarifiée, par exemple, vous trouvez partout, il y a des couvertes par les papillons. C'est incroyable.
Donc, il y a des endroits où qu'ils semblent vraiment préférés.
Oui, mais durant la migration et les certaines plantes, et je pense par exemple en ville, si vous avez une région urbaine, par exemple, il n'y a pas beaucoup de plantes nectarifiées disponibles pour eux. Si vous plantez une plante nectarifiée, c'est beaucoup, beaucoup qui arrive. La ville de Toronto, par exemple, c'est un peu comme un désert.
Ouais.
Et il n'y a pas beaucoup d'options. C'est peut-être le même en Montréal, on n'est pas certain.
Donc, c'est là-dessus que vous allez poursuivre vos études afin de déterminer les endroits où ils se rassemblent davantage.
Oui, c'est ça. Ou qu'est-ce qu'il est préféré, qu'il ait des bons succès à reproduction, à trouver les ressources.
Et je retourne vers vous maintenant, Alessandro. Quelle est l'importance de ces observations en temps de pandémie par des citoyens qui, par exemple, ne le font pas habituellement, mais qui s'y mettraient? Est-ce que vous avez besoin d'eux?
Eh bien, c'est certain, on a toujours besoin d'eux, mais en ce moment, c'est d'autant plus criant. J'ai des collaborateurs, des collègues à moi qui ont dû annuler leurs expéditions sur le terrain cet été en raison du contexte actuel. Donc, c'est des biologistes, c'est des chercheurs, des chercheuses qui ne vont pas sur le terrain pour prendre des mesures. Alors là, chaque citoyen, citoyenne peuvent contribuer à leur façon en allant soit dans leur jardin, pas très loin de chez eux, ou même durant leurs vacances, hein, profiter du grand extérieur. Donc là, si chacun prend le temps un peu de regarder autour d'eux à savoir s'il y a de l'asclépiade et de documenter la présence de monarques, eh bien là, on contribue, on aide d'autant plus les équipes de recherche à avoir de l'information durant ce contexte.
Et rapidement, où les citoyens peuvent-ils consigner leurs observations?
Nous, au Canada, c'est la plateforme de Mission Monarque. Là. Le site Internet, c'est mission-monarque.org. Vous allez sur le site, vous devez vous inscrire. Par la suite, vous avez votre compte et là, vous pouvez consigner vos observations là, tout au long de l'été et durant le blitz.
Alessandro Dieni, Marianne McNair, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Merci à vous.
Vous l'entendiez, hein, il n'y a pas beaucoup d'options pour les monarques en ville, mais si vous voulez les aider, vous pouvez planter, pour aider ces papillons pollinisateurs, vous pouvez planter de l'asclépiade dans vos plates-bandes. Et vous savez quoi? Il y a un programme d'espace pour la vie qui s'appelle Oasis pour les monarques qui vous indique exactement comment le faire. Vous pouvez trouver ça sur Internet sans aucun problème. C'est tout pour cette édition de L'Heure du Monde. Je m'appelle Jannick Tremblay et je vous dis à demain, dans quelques secondes, le bulletin de l'heure.
Mon copain Vincent Bolduc sera avec moi, Philémon Simon en musique et aussi, je vais essayer de vous inciter à acheter local.
Pétillant et corsé avec André Robitaille. Aujourd'hui 13h, Maritime 14h sur Ici Première.
Vous écoutez Ici Radio-Canada Première au 106.3 à Québec. Du cœur aux idées.
Ce matin au Radio-Journal, climat de travail toxique à Rideau Hall, Ottawa lance une enquête. Québec donne un peu de souffle à l'industrie de la culture.
D'avoir les gens qui rient, de les entendre, ça devient plus intéressant que strictement d'avoir 50 personnes. Donc je pense que pour les artistes, ça va être positif.
Le gouvernement autorise les rassemblements de 250 personnes dans les lieux publics et montée de la violence contre les chauffeurs d'autobus. Bonjour, ici Bruno Larose. Ottawa braque ses projecteurs sur Rideau Hall. Le bureau du conseil privé de Justin Trudeau a lancé une enquête indépendante pour déterminer s'il y a un climat de travail toxique au sein du bureau de la gouverneure générale Julie Payette. À la suite de témoignages troublants sur CBC, Diana Gonzalez, la pression était forte sur le gouvernement fédéral pour qu'il fasse la lumière sur ces allégations.
Oui, Bruno. Et le premier ministre s'est fait questionner là-dessus à plusieurs reprises, les néo-démocrates et conservateurs qui réclamaient qu'il agisse hein, pour faire face ou pour plutôt faire la lumière sur ces allégations de harcèlement et d'intimidation au bureau de la gouverneure générale. Alors, il y aura un examen approfondi, indépendant et impartial sur les préoccupations soulevées par d'anciens employés et aussi des employés actuels. Et dans une déclaration écrite, le bureau du conseil privé explique qu'il aura recours au service d'un tiers indépendant. Julie Payette a aussi réagi dans un communiqué. Elle dit prendre au sérieux les questions de harcèlement Et sur Twitter, elle affirme même qu'elle a demandé la conduite d'un examen indépendant. Pour elle, il est primordial que tous les employés qui travaillent à Rideau Hall bénéficient d'un environnement de travail sain et sécuritaire.
Et Diana, d'autres témoignages à charge pour la gouverneure se sont ajoutés ces dernières heures.
Oui, CBC a recueilli des témoignages d'anciens employés qui disent avoir quitté leur emploi en raison de comportements jugés abusifs, humiliation publique également, dénigrement. CBC qui a parlé à des employés donc anciens, aussi des employés actuels. Et selon ces témoignages, Julie Payette rabaisserait le personnel et serait aussi le cas de sa secrétaire générale qui est son bras droit.
Merci Diana.
Au revoir.
Toujours sur la scène fédérale, les jours de Bill Morneau au sein du gouvernement sont-ils comptés? En tout cas, de plus en plus de voix s'élèvent pour qu'il cède son fauteuil de ministre des Finances. Le grand argentier du Canada a voyagé aux frais de l'organisme de charité UNI en 2017. Il a remboursé mercredi, juste avant de comparaître devant un comité de la Chambre des communes, mais le mal est fait, selon l'opposition. Madeleine Blais-Morin fait le point.
Le gouvernement devait déjà gérer une crise sanitaire et une crise économique. Il est de plus en plus clair qu'il s'enlise dans une crise politique. Le Bloc québécois joint sa voix à celle des conservateurs. Le député Réal Fortin affirme que Bill Morneau doit démissionner.
Tu peux pas admettre tout ce qu'il a admis, t'en excuser, puis dire « mais je vais quand même garder la job ».
Le député conservateur Pierre Poilievre a sa propre hypothèse pour expliquer que le premier ministre a choisi de ne pas congédier Bill Morneau, même s'il avait omis de rembourser 41 000 $ en frais de voyage à l'organisme uni.
Lui, il est dans la même situation. Et si il applique un standard d'éthique à son ministre des Finances, Justin Trudeau va devoir l'appliquer à lui-même.
Comme les conservateurs, le NPD demande au commissaire à l'éthique d'ouvrir une autre enquête. Le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris.
Monsieur Morneau fait partie de ceux qui sont tellement riches et privilégiés qu'ils pensent qu'avec un chèque de 41 000 $ il peut acheter la paix puis tout effacer. Nous, on n'est pas de cet avis-là et on demande à Monsieur Dion, le commissaire à l'éthique, d'enquêter également sur ces voyages-là.
Devant ces tirs groupés, les collègues de Bill Morneau viennent à sa défense. Les ministres Mélanie Joly et Stephen Guilbeault.
Il s'est expliqué, et non seulement il s'est expliqué, mais il s'est également excusé.
Le ministre Morneau a reconnu qu'il avait mal agi et il s'en est excusé.
Ses collègues acceptent ses excuses et espèrent que les Canadiens feront de même. Ici Madeleine Blais-Morin, Radio-Canada, Ottawa.
Au Québec.
Une bonne nouvelle pour certains, un message contradictoire pour d'autres. Le gouvernement québécois multiplie par 5 le nombre de personnes autorisées à se rassembler dans les lieux publics intérieurs et extérieurs. La mesure entrera en vigueur à compter du 3 août. L'industrie du spectacle s'en réjouit, mais des médecins sont inquiets. Reportage Marianne Dupuis.
Le nombre maximal de personnes permises lors d'événements intérieurs et extérieurs passera de 50 à 250 personnes. Cette nouvelle règle s'applique aux lieux publics comme les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas. Il faudra par contre maintenir une distance de 2 mètres, faute de quoi le port du masque sera obligatoire. Voici les réactions du vice-président au contenu francophone du groupe Juste pour rire, Patrick Rozon, et du président de la Corporation des salles de cinéma du Québec, Éric Bouchard.
Pour nous, c'est temporaire. T'sais, on a tous hâte, évidemment, nous et l'industrie, que ça redevienne normal. C'est un bon pas en avant.
Au fur et à mesure que les nouveautés sortiront, du moins c'est ce qu'on souhaite parce que la situation évolue rapidement, le 250 sera bienvenu pour plusieurs d'entre nous, bien évidemment.
Le gouvernement Legault maintient toutefois la limite de 10 personnes pour les réunions dans les résidences privées. L'infectiologue Cécile Tremblay croit donc que cet assouplissement lance un message contradictoire à la population.
On dit aux gens de ne pas se rassembler dans des maisons privées pour ne pas faire de party. Et puis de l'autre côté, on dit on fait des rassemblements de 250 personnes. Alors, je ne vois pas la logique.
Québec assure que cette décision a été prise sur recommandation des autorités de la santé publique. Ici Marianne Dupuis, Radio-Canada, Montréal.
L'examen indépendant de la fusillade de Portapique annoncé hier par les gouvernements d'Ottawa et de la Nouvelle-Écosse pourra-t-il faire la lumière sur ce tragique événement? Les familles des victimes en doutent. Elles réclamaient plutôt une enquête publique, complète et indépendante de la tuerie qui a fait 22 morts en avril dernier. Nicolas Steinbach.
Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse lancent un examen indépendant conjoint sur la tuerie du 18 et 19 avril à Portapique, en Nouvelle-Écosse. La fusillade de masse qui a fait 22 victimes est la pire de l'histoire du pays.
were two of our province's darkest days.
Ces jours sont les plus sombres de notre province, dit le ministre de la Justice, Mark Furey. Nous devons tout faire pour éviter qu'un tel événement se reproduise. L'examen indépendant sera dirigé par deux femmes, Anne McLellan, ancienne vice-première ministre du Canada, et Leanne Fitch, ancienne chef de police. Le troisième commissaire est Michael MacDonald, un ancien juge en chef de la Nouvelle-Écosse.
To ensure that families get the answers
pour s'assurer que les familles obtiennent les réponses qu'elles méritent. Les questions centrales de l'exercice sont liées aux interventions des différents corps de police et les motifs du tireur. La tuerie de porte-à-pic a duré plus de 13 heures. Le tireur a abattu des amis, des voisins, tout en se faisant passer pour un agent de la GRC dans une fausse autopatrouille. Mais cette révision n'est pas ce que Darcy Dobson et les autres familles des victimes demandaient, soit une enquête publique complète et indépendante. L'examen a été préféré par les gouvernements parce que, selon eux, il peut être achevé plus rapidement.
We asked for the truth.
Le rapport final avec les recommandations du comité indépendant doit être présenté le 31 août 2021. Ici Nicolas Stenbach, Radio-Canada, à Moncton.
Insulté, agressé physiquement, être chauffeur d'autobus dans les transports en commun au Québec est devenu dangereux. Plusieurs dizaines de chauffeurs ont été victimes d'agressions l'an dernier. Cette montée de la violence inquiète les sociétés de transport public. Claude Brunet a rencontré un chauffeur qui a été agressé.
Je me sentais pas en danger, là. Je me disais, ben, le jeune, il va comprendre, là, pis ça, puis là, ben, il m'a frappé, là, puis là, ben, j'ai plus de souvenirs après.
Ron Pugh a reçu un violent coup de poing au visage au printemps 2018, alors qu'il était au volant d'un autobus du RTC à Québec, parce qu'il a refusé le passage à un étudiant qui n'avait pas son titre de transport. Aujourd'hui, la fracture du nez, la commotion cérébrale et la perte de vision sont choses du passé, mais 2 ans plus tard, la peur est restée.
Mais je sais pas de quoi j'ai peur, mais j'ai peur de tout en même temps, là. Mais c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui vit pas ça.
La retraite anticipée n'a pas soulagé les tourments de Ron Pugh.
Il y a comme avec ça le goût de plus se relever, là.
À Québec, l'an dernier, 45 chauffeurs ont été agressés physiquement ou verbalement. À Montréal, 156 agressions de chauffeurs. Et dans les deux cas, c'est en augmentation. Au sein de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail, les 9 sociétés de transport public et les syndicats cherchent à réduire les agressions et à soutenir les cas de troubles de stress post-traumatique. Mais la concertation prend du temps et les solutions tardent à venir. Laissé à lui-même, Ron Pugh garde espoir.
Peut-être qu'avec le temps, je vais être capable de... Mais mon Dieu, j'aurais pas voulu vivre ça.
Claude Brunet, Radio-Canada, Québec.
En terminant aux États-Unis...
So I told my team it's time to cancel the Jacksonville, Florida component.
Le président américain annule la portion de la convention républicaine qui devait se tenir en Floride à la fin du mois prochain. Donald Trump devait être intronisé comme candidat du Parti républicain à la présidentielle de novembre au terme de cette réunion. Il estime qu'en raison de la pandémie, le moment est mal choisi pour tenir un événement de cette envergure. Cette décision intervient au moment où les États-Unis ont franchi le cap des 4 millions de cas d'infection à la COVID-19. Voilà, c'était le Radio-Journal. Restez là pour la suite de votre émission du matin. Merci d'avoir suivi ce Radio-Journal et bonne journée.
Son porte-clés qui a une lumière verte.
Hey, parlant de ça, c'est-tu dans le secteur de Boischâtel? Je sais pas si tu as vu ça passer, Dan. J'ai vu ça passer rapidement. Là. J'ai pas eu le temps de l'intégrer dans ma tête, mais je peux peut-être te raconter l'histoire là, telle que je l'ai lue un peu de travers. Ça se passe dans le secteur de Boischâtel. Des policiers qui ont un appel au 911, un résident qui a vu des jeunes passer de maison en maison pour ramasser les colis de Poste Canada et d'Amazon.
Ah, maudit.
Parce que Poste Canada, ils ont comme une nouvelle façon de procéder là, avec la COVID, c'est-à-dire qu'ils viennent te porter ton colis, ils le mettent dans un endroit précis le plus sécuritaire possible, cognent à la porte puis ils sacent le camp.
As-tu ouais. la photo de Brun cet été? Notre
non.
ancien collègue?
Non.
il a pris une photo sa porte là avec le colis qui était dans la porte. Et c'était marqué « TV Full HD ». Il a écrit « Livre à toute subtilité par Post Canada ». C'était clair, là, c'était comme un,
ouais. C'est une télé, là.
Ouais, c'est une télé.
Tu sais, ce genre d'événement-là, tu peux pas faire ça à Saint-Roch, là.
Okay? Non.
Nous autres, en Beauce, le gars d'Amazon passe, puis je le salue, là. C'est une machine de guerre. Tu commandes, puis ça arrive tout le temps, le plus rapidement possible.
Yes.
Lui, il s'assure de mettre ça dans un endroit où c'est très sécuritaire. Puis si c'est écrit TV HD, là, ben, il déplace la chaise, Dan, puis il met ça devant la boîte pour que quand tu passes dans la rue puis tu regardes vers la maison, tu ne vois pas cette fameuse boîte de livraison-là. Mais bref, pour en revenir à nos moutons, ça se passe dans le secteur de Bois-Châtel. Un appel au 911, les policiers reçoivent un appel comme quoi il y a des jeunes qui ramassent des colis qui ne leur appartiennent pas, puis il y a un résident qui est à leur poursuite. Donc là, les policiers commencent à se diriger vers l'endroit. J'imagine que le résident avait son cellulaire parce que les policiers ont réussi à retracer le résident plus les individus.
Et j'aimerais entendre l'audio de ça.
avec leur véhicule, ouais. Mais si tu regardes, je pense que c'est sur le soleil, soleil.com. Mm-hmm. Le gars, il est nu-pied. Le gars, il a vu son voisin qui se faisait voler, pas le temps de mettre les souliers, embarque dans son char, court après jeune. On parle de deux jeunes aux alentours de 18 ans, puis une jeune fille qui devait peut-être avoir 16-17 ans, qui faisait partie du trio.
Le monsieur est en pied de bas, là.
Ben oui!
Ben, par justice pour mes voisins, là, j'aurais le réflexe de faire ça, mais ça n'arrivera pas, j'étais en appartement, puis la porte se barre après. Là. Fait que quand M. Post Canada a accès au bloc, il laisse le colis devant la porte, mais ouais. Ça se pourrait très bien que je me fasse voler à l'interne, là, mais c'est pas arrivé encore.
J'ai dit deux jeunes de 18 ans, là, mais c'est un jeune de 20 ans, puis un jeune de 18 ans. Et quand les policiers ont décidé d'ouvrir le coffre, je pense que c'est une vingtaine de colis, là. Qu'on a réussi à sortir de là. Là.
On parle de entre 15 et 20 colis. Il y avait des souliers Nike, il y avait de la bouffe. Mm. Ils ramassaient marché Good Food. Donc, ils ramassaient la livraison de bouffe. Ouais.
Ouais. La semaine d'épicerie de quelqu'un, là, c'est pas fort. Même, je vois les produits cosmétiques Sephora, là, ça, là, ça vaut une petite fortune, ça aussi. Là.
Ah ouais?
Mais, c'est pas trop long quand tu commandes chez Sephora. Là. Oui, j'adore magasiner là, mais ça monte, là. Fait que je sais pas pour combien ils ont pu voler juste en cosmétique, là, mais c'est particulier.
Mais tu sais, comment tu veux que la personne qui travaille comme livreur de Poste Canada soit capable d'éviter ça, là? Avec les nouvelles directives qu'on leur a données, là, c'est t'arrives à la porte, tu mets le colis, tu cognes, tu t'en vas. Une fois que le colis est là, c'est plus ta responsabilité, là. Toi, t'es rendu 4-5 rues plus loin, puis t'as des jeunes qui passent dans le quartier pour ramasser les colis.
Ouais.
On me dit qu'à Beauport, ben Bois-Châtel, Beauport, mais on me dit qu'à Beauport, il y a des vols de colis aussi. Donc, c'est peut-être eux aussi. Là.
Ça m'angoisse plus en ville qu'en région. Là. Mais je comprends pas pourquoi les livreurs ne pensent pas à aller à la porte arrière d'une propriété.
Ils n'ont pas d'affaires, là.
Ouais, c'est ma réflexion aussi. Tu sais, à un moment donné, si tu commences à faire des exceptions pour tout le monde.
Ben pas des exceptions. Ben, pour une maison.
Tu vas dans la cour arrière, tu te ramasses avec le chien, ah non, là, tu te fais mort.
C'est peut-être ça le danger, mais c'est parce que c'est sûr que de laisser. Je comprends là, que c'est une formalité, puis c'est le même que ça marche. Ouais. C'est sûr que tu le laisses en pleine évidence devant la vue de tous devant la rue.
Il y a une solution. Tu te rappelles ce que tu faisais le 15 février, puis tu fais la même affaire.
C'était les petits cartons, là.
Ouais.
Ouais, pour aller chercher les colis. J'avoue que ça se fait plus, ça.
Amazon, je sais pas si tu peux faire ça. Moi, Amazon, ça a toujours été livré à ma porte, là, mais Post Canada.
C'est UPS, souvent.
Post Canada, des fois, quand c'est trop gros pour rentrer dans la boîte, là, ils me donnent un petit carton, puis je m'en vais au bureau de Post Canada.
C'est ce que je fais. Ben, avant, c'est ça qu'on faisait.
Ouais. Mais depuis quelques mois, c'est plus ça, c'est un relâchement.
Puis depuis quelques mois, ben, ça n'a pas d'impact chez nous, parce qu'il y a toujours quelqu'un à la maison. Et on bombe à la porte, nous autres, il y a toujours quelqu'un. Télétravail.
Ça a l'air à faire plaisir.
Ah oui. Ah oui. T'as toujours quelqu'un chez nous.
mais c'est ça, hein. On est un peu brisé dans nos petites habitudes. Il y a des gens qui ont commencé à faire du télétravail, qui n'en faisaient pas avant. Puis t'avais le conjoint qui avait peut-être un autre horaire qui, lui, le jour, acceptait d'être très relax à la maison. Dans le cas de Dan, travaille le matin, donc j'imagine que l'après-midi, tu faisais un petit somme.
Non, je fais pas ça, moi.
Non?
Nope.
OK.
Je me couche le soir.
T'es fait fort.
Je fais pas de somme l'après-midi, puis sauf le vendredi, parce que la fin de semaine, c'est le fun d'avoir une vie.
Ouais.
Sinon, je resterais possiblement un 3,5 tout seul à regarder des reprises de Chop Suey.
Ouais, c'est sûr. Hey, hier, t'as-tu du trouble avec ton masque?
Non.
Non?
Toi, Camille?
Non, ben en fait, j'ai pas vraiment de vie, fait que j'ai pas mal retourné chez nous après.
T'as-tu une maladie quelconque qu'on connaît pas?
Non.
T'as-tu des problèmes de respiration, des problèmes cutanés?
Aucun problème de santé,
Autisme?
Non.
Schizophrénie?
Non, ben, pas de diagnostic encore.
Pourquoi je vous parle de ça ce matin, les amis? C'est parce qu'on a eu finalement la fameuse liste des gens qui sont exemptés du port du masque au Québec. Puis ça englobe plusieurs personnes. Puis en même temps, si t'es dans un centre d'achat puis t'as pas de masque, puis y a un agent de sécurité qui vient te voir puis qui te dit que t'as besoin d'un masque, il y a des maladies qui sont pas visibles.
Oui.
Tu sais, la schizophrénie, c'est pas visible. Des fois, ça peut l'être quand t'es dans un épisode particulier, mais la schizophrénie, c'est pas visible. Les troubles cutanés, c'est comme ça qu'on les appelle, si t'as pas de crise, c'est pas visible. Peau sensible, sur tes oreilles, sur ton nez, si t'as pas de crise, c'est pas visible, mais t'as l'agent de sécurité qui est en face de toi, puis il te demande de mettre un masque, sinon, tu sors. Ben là, on a mis la main sur la fameuse liste de qui doit être exempté du port du masque au Québec. Puis, je vous en parle, donc, personne incapable de mettre ou d'enlever elle-même un masque en raison d'une limitation physique.
OK.
Dan, pas de trouble?
Pas de trouble.
Déformation faciale. Bon, il y a juste Camille qui n'aurait pas de trouble ici. Bon. Affection cutanée grave au visage ou encore aux oreilles. C'est ce qu'on nous mentionne. Troubles cognitifs. C'est quoi des troubles cognitifs?
Les malentendants?
Ouais, ça peut être... je sais pas si ça s'appelle un trouble cognitif, là, mais exemple, si je me fie aux personnes âgées, des fois, c'est les synapses qui... C'est le cerveau, des fois, qui fonctionne pas tout à fait super bien. Déficience intellectuelle. Problème de toxicomanie. C'est inclus là-dedans. Fait que, avis à ceux qui fument du pot à tous les jours, là, vous seriez exemptés, si on en croit la nouvelle liste qui vient de sortir pour ceux qui sont exemptés du port du masque au Québec, ceux qui souffrent de toxicomanie, vous seriez exemptés du port du masque.
OK. Non, je suis en train de chercher ce qui...
J'entends des applaudissements dans les véhicules. Est-ce que c'est normal?
Non, c'est parce que je cherche les troubles cognitifs, puis c'est vrai que je les ai pas n'importe quoi. On parle plus de démence, puis d'amnésie, c'est le cerveau. Là.
C'est au niveau de la décision.
Oui. Puis quand j'étais dans les CHSLD, puis les foyers de personnes âgées, j'ai vu du trouble cognitif au départ, puis après quelques semaines, là, quand ces gens-là n'ont pas de contact avec personne...
Ça s'est dégradé.
C'est pour ça que le gouvernement du Québec a dit, c'est parce qu'au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique pour les personnes âgées, faut libérer à un moment donné. Faut que ces gens-là puissent avoir accès à leur famille, qu'ils puissent avoir des colleux, faut qu'ils puissent sortir pour aller marcher un petit peu.
Je disais que chez les femmes, il y a pendant de longues, longues années, les femmes qui avaient de l'éducation, donc qui avaient été à l'université, c'est malheureux, mais à une certaine époque, c'était plutôt rare. Quand il y avait ce genre de troubles-là, des troubles cognitifs, c'était difficile à diagnostiquer parce que les médecins ne s'en rendaient pas compte, parce qu'on n'avait pas... Tu sais, ils étaient capables de s'en sortir pareil de par... Semble-t-il qu'il y a eu ce trouble-là lors du diagnostic pour des maladies neurologiques chez les femmes parce qu'on ne s'en rendait juste pas compte.
Ah ouais.
Spécial, ça.
Donc, trouble du spectre de l'autisme... Ça fait partie aussi de la liste d'exemption du port du masque au Québec, mais trouble du spectre de l'autisme, là, quelqu'un qui est autisme profond, ça peut se remarquer rapidement. Quelqu'un qui est Asperger puis qui parle pas, je t'annonce que ça se remarque pas, là. Fait qu'ils vont faire comment pour gérer tout ça? Donc, tous ces troubles-là, toute cette liste-là a été ajoutée au décret ministériel. On a tout là à le mentionner, puis j'en ai d'autres, là. Ça vise aussi les personnes qui ont un problème de santé mentale sévère et qui ne sont pas en mesure de comprendre l'obligation du port du masque. Fait que les gros adeptes de théorie du complot, là, qui pensent que Bill Gates, le 5G puis le coronavirus, c'est dans la même catégorie, vous pourriez peut-être être exempté du masque.
C'est ça,
Sérieux, Dan, là, je suis tanné.
Ben, je suis
vraiment tanné. En faisant Radio Experts avec Christian Page, tu sais, on parle des complots, puis il y en a déjà eu des complots.
Okay? Ben oui, je sais.
Un complot, ça peut être 10 stations-service qui jasent entre eux dans le but d'obtenir le meilleur prix possible pour l'essence puis de conserver ça super élevé. C'est un complot. Mm-hmm. Mais quand tu me mets Bill Gates, le coronavirus puis les antennes 5G, ça, c'est de la folie. Là. Yeah. Est-ce que tu comprends que moi, j'ai des communications avec les gens sur Messenger où... On me dit que je suis payé, moi et Christian Page, on est payé par le gouvernement pour éloigner les gens de ce fameux complot-là.
Ah, c'est particulier. Là. Même Bill Gates qui a dû parler en entrevue à CNN, là, c'est un article qui est sorti hier. Puis, tu sais, lui, il est accusé parce qu'il a donné des millions de dollars à la lutte pour la COVID-19 puis pour la recherche d'un vaccin qui va implanter genre de quoi à tout le monde là, avec son vaccin. Là. C'est complètement fou. Là. On mélange trop d'affaires puis il espère juste qu'à un moment donné, les gens vont reconnaître les faits. Là,
Mais tu sais, je vais être clair, il y en a déjà eu des complots. Là. Mais si vous me dites que le septembre 11 septembre 2001, c'est ce que j'aurais dû dire. Si vous me dites que c'est un complot qui est organisé à l'interne, les amis, faites le test dans votre entreprise. Là. Dites que vous avez une gonorrhée. D'après moi, dans deux semaines, tout le monde sait que vous avez une gonorrhée. Fait qu'imaginez-vous mettre des explosifs à la grandeur du World Trade Center sans que personne s'en rende compte. Ouais. Ça prend des gens qui sont prêts à tuer du monde. Mettre des agents de sécurité. Personne ne s'est jamais douté de rien pendant tous ces mois-là où on a mis des explosifs partout. Comment, tu sais?
Non, mais Marceau, c'est...
Hier...
T'es pas réveillé, là. Le grand éveil, la vertouille, Marceau.
Hier, Bill Gates était assez bon. Moi, je l'ai trouvé assez bon à CNN. Écoute, il a trouvé ça drôle, l'histoire du l'histoire des grands complots. Hier, lui, il était là pas pour réagir à ça, mais parce qu'il annonçait 250 millions de dollars que sa fondation allait donner pour lutter contre le coronavirus. Puis, suite à l'annonce, bien évidemment, il y a eu différentes entrevues. Mais ça avait pas l'air d'un gars stressé, ben.
Non, non.
C'est pour lui, c'est vraiment des abrutis, puis il n'y a pas de temps à perdre avec ça.
Comment veux-tu réagir? T'as un reporter qui te dit, ouais, ça a l'air que tu veux implanter le 5G genre dans un vaccin pour donner ça à tout le monde. Et le seul réflexe que t'as, c'est de rire de la gueule du monde. Qu'est-ce que tu veux? C'est ridicule.
Puis c'est à se demander pourquoi il réagit à ça. Là.
Ben... Tu ferais quoi, toi,
j'aurais posé la question de l'avoir en entrevue, toi aussi.
C'est ça. Et puis, 5G, le vaccin.
Ouais, je l'aurais peut-être posé, mais en riant. Ça n'aurait pas été une question très, très, très sérieuse comme ça a été posé hier.
Ah, ça se peut. Écoute, mais en même temps, la question a été posée, puis moi, dans sa réaction, j'ai trouvé ça... Ben, il ne pouvait pas en avoir d'autres.
Tu sais, Bill Gates est peut-être pas parfait, personne qui l'est, mais c'est quand même le gars qui se promène avec un T-shirt puis des jeans puis qui fait la file devant... derrière 25 personnes pour aller manger un burger puis des frites. Là.
Mm-hmm.
C'est quelqu'un de tout à fait normal, là. Mais d'extrêmement riche.
Voilà.
Mais je sais pas pourquoi il a tenu à mentionner que c'est pas parti de ce complot-là.
Ben, c'est parce que ça a tellement... Ce serait comme... Autant que la question peut paraître ridicule, ce serait ridicule de pas en parler parce qu'on ne voit que ça sur Internet.
Ouais. Ah ouais.
Il veut pas le choix faire un statement que ce soit aussi simple que de dire ben, c'est drôle puis j'espère au moins que les gens vont... que la vérité va prôner, la vérité va être reconnue un jour.
C'est vrai qu'il me dit, dans la liste des exemptions, vous avez oublié Horacio Arruda. On n'a pas eu d'autres photos, hein?
C'est pas... Non.
D'après moi, il y a eu un call qui s'est fait. Là,
les gens se sont timides ou on n'en a juste pas.
Mais tu sais quoi, Camille? D'après moi, il y a un call qui s'est fait du bureau du premier ministre.
Non, je pense que oui.
En disant, hey, le clown, tu dois être le meilleur modèle pour la loi que tu viens de mettre en place. Là.
Mm-hmm.
C'est-à-dire masque obligatoire. La Coalition Avenir Québec fait ça parce qu'Horacio Arruda l'a demandé. Fait que c'est sûr qu'il y a eu un talk. Là. Tu peux pas enlever ton masque dans ta face si t'es Horacio Arruda. Là. Même quand tu dors.
C'est ça.
Y a-tu dit que...
Si ça s'est passé de cette façon-là... Là.
Comment?
Si ça s'est réellement passé de cette façon-là.
Ben, c'est parce que j'imagine que les gens de la Coalition Avenir Québec, en fait, je peux te l'affirmer, là, mm-hmm. Ils ont vu passer les photos. Là.
Ah, je sais qu'ils ont vu passer les photos, sauf que moi, je pense pas que c'est Horacio Arruda qui a exigé le port du masque partout. Moi, je pense que c'est ce qu'on nous dit. Là.
Ben, en fait, c'est l'autorité.
Mais c'est clairement une décision politique. C'est clairement une décision. C'est plus pour le paraître que pour la réalité.
Ah, mais c'est pas uniquement au Québec, là. C'est pas uniquement au Québec qu'on impose le port du masque. C'est l'Organisation mondiale de la santé, puis la santé publique est arrimée sur l'Organisation mondiale de la santé. Fait que ça doit passer par Horacio Arruda qui le recommande, puis par la suite, bon, on fait le décret, puis on met ça en place. Mais c'est lui le directeur de la santé au Québec, mm-hmm. Puis je suis pas mal persuadé que, tu sais, ils l'ont appelé pour dire, là, non, tu t'enlèves plus ça, là. C'est comme le bonhomme carnaval, c'est va aux danseuses. Non, tu ne vas plus jamais aux danseuses. T'as pas d'affaires là. C'est comme le curé qui va taponner des petits gars. C'est jamais arrivé. Hein? Non, c'est ça. Fait que tu peux pas. tu peux pas lui permettre d'être le pire des exemples pour ce qu'il vient de mettre en place. Autre chose, hey, je suis en train de faire une lecture juste avant de rentrer en onde, Camille. Si je te dis Ron Pugh, est-ce que ça te dit quelque chose?
Non.
C'est un ancien chauffeur d'autobus du RTC, puis je le salue parce que lui, il vit encore aujourd'hui des événements qui ont l'air douloureux. Là.
C'est-tu lui qui s'est fait tabasser dans un autobus du RTC?
Ça fait casser le nez. Là.
Par un jeune, oui.
Le gars doit avoir, puis je veux pas le vieillir, mais il doit avoir entre 55 et 60 ans. Le 3 mai 2018, il informe un jeune homme du nom de Vincent Dallaire que sa carte Opus, c'est ça?
Oui, la carte est expirée.
Est expiré. Le jeune est sur le stress, semblerait, parce qu'il y avait un examen ce jour-là.
Ouais, fallait qu'il se présente à l'école.
Décide de fesser le chauffeur, puis de sacrer son camp. Finalement, on l'avait retrouvé, puis on avait réussi à le faire condamner par le tribunal. Je pense qu'il avait écopé quoi de 90 jours de prison à ce moment-là. Ouais, là,
c'est rien.
Ce qui est vraiment pas suffisant, mais lui a dû avoir des cours de réadaptation physique. Là.
Aïe, aïe!
Puis, il a essayé de recommencer à travailler, mais à chaque fois qu'il y a un client qui rentrait ou il y avait une certaine problématique, il se disait dans sa tête, « Hey, je vais-tu rentrer à l'hôpital pour 3,50 $, moi, là? »
On va-tu se le dire en ce moment? C'est comme pas le bon timing. Ça aurait pas été le bon timing, mettons, que ce monsieur-là recommence avec la part du masque, lui d'obliger des gens. T'es post-trauma, là. C'est des affaires qui peuvent arriver, des débordements.
De ce que je comprends, c'est qu'il a pris une retraite anticipée parce qu'il y a encore, à ce jour, des séquelles psychologiques. Puis, le gars, là, c'est un gars costaud. Puis de ce qu'on sait, c'est qu'il a fait des arts martiaux toute sa vie. C'est un ancien militaire. Donc, c'est un gars qui est capable de se battre. Mais ce jour-là, il s'attendait pas à se faire fesser pour 3,50 $. Puis là, ben, tu te dis, ça arrive-tu souvent? À Québec, des agressions physiques en 2019, on en a répertorié 10. 2018, 9. 2014, il y en a eu seulement 4. Ça veut dire que c'est en progression. Même les agressions verbales sont en progression. Des menaces de mort. T'es chauffeur d'autobus, puis tu reçois des menaces de mort.
Totalement la job, tu sais, je comprends pas les gens. Pourquoi, là? Pour vraiment juste un passage?
Ouais. Tu sais, nous autres, on reçoit des courriels de menaces, on reçoit des messengers de menaces, mais on prend ça, tu sais, un peu plus à la légère parce que c'est des gens qui sont sur le virtuel, sont dans le sous-sol en bobette, puis ils travaillent pas, sont sur la PCU.
C'est ça, il y a des gens qui ont juste ça à faire, puis d'un autre côté, des fois, bon, on brasse la cage un peu, puis on dit des affaires qui peuvent choquer du monde à des niveaux démesurés.
Sauf qu'il est 23h le soir, Camille, tu conduis un autobus, puis tu te fais menacer de mort.
Pourquoi?
Des épisodes de rage au volant. Il y en a eu 18 en 2018. Des crachats, des chauffeurs qui se sont fait cracher dessus. Puis ça, en passant, c'est des événements qui ont été rapportés. Là. Il y a bien des affaires, c'est un chauffeur qui est en train de m'écrire présentement, il y a bien des affaires qui sont pas nécessairement rapportées. Le RTC demande à ses chauffeurs de rapporter tous les événements, mais des fois, il y a des chauffeurs qui ont juste d'autres choses à faire. Tu sais, quand ils reçoivent une bine sur l'épaule, des fois, ils rapportent pas. Des crachats. Tu te fais cracher dessus.
Ben, l'autre cas qui avait été quand même médiatisé, là, c'était en octobre 2019, puis on a réussi à arrêter la madame. C'est en février dernier. Là, une madame qui avait rentré puis qui avait frappé là, à coups là, quasiment d'avant-bras, là, de poing, le bras au complet.
C'était,
là,
c'était pas une madame, c'était une jeune fille. Une jeune fille qui est copropriétaire d'un bar sur la rue Saint-Jean. C'était la digne représentante de son bar qui a été filmée dans cet autobus-là. Puis elle a été retracée. Je te l'annonce, là. Elle a été retracée.
Oui, février 2020.
Exact. C'était assez facile de savoir qui elle était. Elle n'était pas masquée. Puis c'est une fille qui travaille dans un bar puis dans la restauration. Fait, on va se le dire, dans ce coin-là, tout le monde se connaît. Fait qu'on a su assez rapidement c'était qui. Mais de voir que, tu sais, ils sont dans leurs autobus puis ils se font agresser physiquement, agresser verbalement, puis ils se font cracher dessus.
Ah, il avait lancé sa bouffe.
Ouais. Ah, vous êtes fait fort. Vous êtes fait fort, les gars, les filles qui travaillent au RTC. On critique souvent le RTC, mais on critique souvent plus l'administration que les chauffeurs. Moi, j'ai pas pris l'autobus souvent dans ma vie, mis à part quand j'étais jeune garçon. J'ai toujours eu un bon service, mais vous êtes fait fort. Puis c'est à se demander des fois, Dan, je sais pas si t'es d'accord, mais il devrait avoir. Moi, j'ai vu ça à South Beach, aux States, là, à Miami. C'est comme des demi-visières. Fait que le chauffeur, là, à sa droite, pendant qu'il conduit, à l'endroit où les gens rentrent, ben, il y a comme une demi-visière d'à peu près 5 pieds et demi, 6 pieds. Ça veut dire que si quelqu'un veut frapper le chauffeur, ben, il doit passer par-dessus cette fameuse visière-là. Je sais pas si c'est en plexiglas ou quelque chose du genre, là, mais c'est que c'est ce genre de cabine protectrice pour le chauffeur. C'est à se demander si on n'aurait pas besoin de ça à Québec à un moment donné.
Mais malheureusement, à South Beach, leur plexiglas, ils ont dû payer 11 piastres du plexiglas, puis ici, ça va être une facture de 1,6 million. Pour faire 10 autobus.
C'est pas fou ce que tu dis, Dan.
Il y a peut-être ça, mais je salue Ron Pugh qui, c'est arrivé le 3 mai 2018. On est quoi? On est le 24 du 7. Il y a encore des épisodes dans sa tête où ça va pas, là. Suite à ces événements. Là, c'est d'une tristesse, là. T'as 58 ans, tu veux pas finir ta carrière à 58 ans si t'aimes ton métier, là. Puis dans son cas, lui, il a essayé de recommencer à travailler, donc il devait pas détester son métier, là.
Écoute, puis un sucker punch, hein, c'est très, très jaune. Très jaune.
Ça a mérité 90 jours de prison pour ce jeune homme-là.
Pour un gars qui est plus fonctionnel comme avant, là. Ouais. Dire, il est pas à 100%, là.
90 jours pour le jeune. Et Dan, est-ce que tu penses qu'il a fait les 90 jours?
Ben, c'est sûr que non.
T'es au Québec. Ouais. T'es au Québec, ici!
Radio X. La fin de semaine, Radio X. On t'envoie une bonne dose de classic rock. Yeah, yeah! Légende. Légende du rock. Yeah! Des tunes que tu connais pis que t'aimes. Légende du rock avec Pee-wee. Samedi et dimanche, 9h.
Radio X. Pour moi, le vrai bonheur, c'est faire une escapade pour marcher en forêt, me baigner dans un lac, promener le chien, faire des barbecues. Je pourrais en parler pendant des heures, mais le mieux, c'est de le vivre en vrai. Cet été, prenez le volant de la Kia Forte, la compacte de Kia bien équipée avec, entre autres, la climatisation de série. C'est la Kia parfaite pour les petites et les grandes escapades. Pendant le retour des escapades de Kia, nous payons jusqu'à 6 mensualités d'une valeur allant jusqu'à 3 100 $ sur les Forte 2020. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Visitez kia.ca ou votre concessionnaire Kia pour plus de détails.
Ça, c'est moi toute seule au chalet. Ça, c'est moi toute seule, sans mes collègues de travail. Ça, c'est moi toute seule chez moi, de 9 à 5, puis de 5 à 9. Puis ça, ben, c'est moi, toute seule, avec moi.
On ne veut pas revivre ça. Pour continuer de profiter de nos activités, portons le masque et gardons nos distances dans les rassemblements. Plus que jamais, on doit se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Peu importe ce que l'avenir vous réserve, le Ford Escape 2020 est là pour vous aider à aller de l'avant. Avec le Ford Copilot 360 de série, une suite de technologies avancées d'aide au conducteur et l'affichage tête haute offert en option qui vous permet de garder les yeux sur la route, l'Escape est construit pour la route à venir. Jusqu'au 27 juillet, achetez l'Escape 2020 SE à traction intégrale d'une valeur de 31 550 $ sur 84 mois pour 199 $ aux deux semaines, lorsque financé par Crédit Ford. Pour les détails, visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca.
MDLC.ca vous offre des motorisés, fifth wheel, roulottes, neufs et usagés au juste prix, avec un service rapide et fiable. Visitez l'inventaire en ligne MDLC.ca. Vous n'avez pas magasiné si vous n'êtes pas passé par Motorisé de la capitale du VR.
Tu veux te bâtir un avenir à la hauteur de tes attentes? Viens faire une formation intensive de 12 mois chez Aviron Québec. Nos programmes de charpenterie, menuiserie, électricité, mécanique automobile, plomberie, chauffage font partie des métiers les plus en demande sur le marché du travail. Quelques places encore disponibles pour la rentrée scolaire du 28 septembre 2020. Appelle-nous au 418-529-1321. Chez Aviron Québec, bâtis avec nous ton avenir.
Salut, c'est P.A. Méthode. Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, avant d'annoncer leurs spéciaux à la radio, ils me les font toujours approuver. Et celui-là, j'ai dit oui.
Une offre comme celle-là, ça ne reviendra pas. Durant l'événement À nous la route, louez le Qashqai à 299 $ par mois sur 39 mois, sans comptant initial à verser. Mieux encore, le Kicks n'est qu'à 279 $ par mois en location sur 39 mois et toujours sans comptant initial. Sautez là-dessus.
Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer.
Planifiez les repas des jours à l'avance? Non, madame. Cet été, je joins qualité et facilité grâce aux aliments SRC. Plats préparés, viande surgelée et sous vide de qualité exceptionnelle livrés à ma porte pendant que je profite du soleil. Pas de gaspille, pas de file d'attente et des repas délicieux à prix avantageux. Ça, c'est les aliments SRC. Et pour un temps limité, obtiens 75$ de rabais sur ta commande en inscrivant Radio X dans la case Devenir membre. Lesalimentssrc.ca.
Le prix Employé Plus se poursuit chez Donnacona Chrysler Fiat. Avec le prix du gros, vous payez le prix coûtant sur nos modèles les plus populaires. On fait pas de profit, c'est vous qui économisez gros. Histoire d'en remettre encore plus pendant la liquidation d'été, le prix du gros vous offre du financement 0% jusqu'à 84 mois sur nos modèles les plus populaires en stock. Grand Cherokee ou Ram 1500 2020, c'est 0% au financement jusqu'à 84 mois. On vous attend chez Donnacona Chrysler Fiat, toujours au prix du gros et toujours ouvert le samedi.
Pourquoi ton chum est carré blanc, ça bétaine?
Oh, c'est parce qu'avec Bell, on a Crave et Super Écran en direct et sur demande sur tous nos écrans.
Oh, c'est le fun. Mais c'est quoi le rapport?
Ben, Pierre écoute toutes ses émissions dehors, dans le hamac.
Avec son ordi, ça bétaine.
Crave plus Super Écran quand vous voulez et où vous voulez, pas avec Vidéotron. Abonnez-vous à Crave plus Super Écran et obtenez-le gratuitement pendant un an quand vous passez un forfait télé et Internet fibre admissible. Composez le 310 Bell pour les détails.
Depuis des semaines, les passionnés de conduite remplacent le siège du conducteur par le fauteuil du salon. Maintenant qu'on recommence à sortir de chez soi, Mazda offre 0% de financement à l'achat, des options de crédit différées et la seule garantie à kilométrage illimité au pays. Redécouvrez le plaisir d'être assis au volant. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec votre concessionnaire Mazda pour toutes les nouvelles Mazda 2020. Les conditions s'appliquent. Détails chez vos concessionnaires Mazda.
Ça, c'est moi toute seule sans mon équipe de soccer. Ça, c'est moi toute seule au bord du lac. Ça, c'est moi toute seule avec mon stock de camping. Ça, c'est moi toute seule qui prend un cocktail. Ça, c'est moi toute seule avec moi.
On ne veut pas revivre ça. Pour continuer de profiter de nos activités, portons le masque et gardons nos distances dans les rassemblements. Plus que jamais, on doit se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Laurier Station Chevrolet poursuit sur sa lancée avec les prix employés. Très simple comme promo. Tu payes le même prix que Max, notre directeur des ventes, pour ton camion. Tu payes le même prix que Sylvain, notre conseiller à la vente, pour ton VUS. C'est comme si tu travaillais ici pour le prix du gros. Pas pire, hein? Avec du financement à 0% sur 84 mois sur nos modèles les plus populaires, la gang de Laurier Station Chevrolet travaille toujours pour te trouver le meilleur deal possible. On t'attend chez Laurier Station Chevrolet du lundi au samedi. En toute sécurité et toujours au prix du gros.
Montréal. Montréal. Live. En vacances. Live.
Radio X.
6h38, bon vendredi. Bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Mon nom c'est Marceau. Son nom à lui c'est Dan Gravel.
Et yes Camille sir. Qui est avec nous.
Hello.
Salut Camille.
Hey.
Le rayon de soleil c'est toi.
Le rayon de soleil?
Le rayon de soleil du matin c'est toi. Dan Gravel il arrive avec sa grosse face à 5h. Il commence à sourire à 6 ans.
Puis encore.
C'est
parce que...
Mais c'est vendredi.
Ça demande un effort, sourire. C'est pas nécessairement que je suis de mauvaise humeur, mais...
Ça demande un effort, sourire. Dan, un petit peu de gym, hein?
J'avais déjà lu à quelque part, je sais pas si c'est à l'école là, qu'on nous avait appris ça, mais je pense que ça prend plus de muscles pour avoir un visage bête que de sourire. Alors, ça rien à voir avec les muscles, là.
C'est parce que, naturellement, quand mon visage est au repos,
oui.
J'ai l'air d'un gardien de prison. Ben, t'es fils de flic?
Oui.
C'est important de le mentionner, t'es fils
de
flic.
De la tête de l'emploi.
De la tête de l'emploi. Et surtout petit-fils de ma grand-mère. Ma grand-mère, la mère à mon père, je peux te dire que ça dit non, tu vas pas là, tu y vas pas.
Tu y vas pas.
Oh,
hein?
OK.
Ouais, ouais. T'as plus le droit d'élever tes enfants de même en passant.
Non, je sais.
T'as plus le droit.
Je sais.
Et pourtant.
Ah, j'ai fait. J'ai donné une leçon à mon fils mardi.
Ah oui?
Hein, il a mal agi. Je voulais aller jouer au deck. Je pense que c'est samedi. Fait que j'ai été les porter chez leur grand-maman. Puis en arrivant chez leur grand-maman, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. J'aurais dû demander à grand-maman c'était quoi ses plans de la soirée. Mais elle a accepté de garder ses deux petits gars, là.
Ben oui, parce qu'elle aime se les voir. On
puis j'arrive là. Ouais, j'arrive là. Il y a quatre personnes. C'est des gens au-dessus de 55 ans. Sont en train de jouer à des jeux de société.
Mm-hmm.
À quel jeu de société?
Des jeux de société très relax, là. Là, je me dis dans ma tête, quelle mauvaise idée, maudit papa épais, d'envoyer tes enfants autour de 4 personnes qui, eux autres, veulent une soirée relax.
Uh-huh.
Mais j'ai fait une erreur. J'aurais dû repartir avec mes gars et dire aux gars du hockey, « Hey, j'irai pas. » Mais tu sais quoi, j'ai pensé à moi.
Oh,
ça faisait un bout que j'avais pas joué au hockey. Je me suis dit, « Non, je vais laisser là, je vais voir ce que ça donne. » Écoute, ça a vraiment pas bien été. Les jeux de société ont pris le bord. Les enfants ont été pas du monde. Ce qui fait en sorte que j'ai coupé le hockey à mon gars mardi soir.
Ah, tais-toi.
Ouais. Sauf que, parce qu'il a pas agi comme du monde, j'ai été au fait de certains agissements dont je n'étais pas nécessairement fier. Il me ressemble un peu.
Bon.
On est allé pareil au mardi au hockey.
Ah, t'as plié!
Non, il jouait pas.
Ah, t'es allé montrer. T'es allé montrer ses amis qui s'amusaient.
Ah!
Ouais, j'étais allé y montrer ce qui manquait. C'est-tu indigne, ça?
Ça aurait été drôle que la game soit annulée, pareil.
Ouais. Je m'en ai pas vanté ce soir-là, j'avais pas que la DPJ débarque chez nous, là. Mais non, je veux dire, il faut qu'ils sachent qu'à un moment donné, il faut qu'ils agissent bien. Peut-être que oui, c'est une erreur pour moi de les avoir dompés là. Mais il faut qu'ils sachent qu'à un moment donné, il agit mal. Puis on était pareil, mardi, au hockey, il était pas habillé. Puis il a vu ses amis lui dire salut, puis les autres, il avait le casse à la tête, puis il jouait, puis il s'amusait.
Sans créer de traumatisme, ça prend des événements comme ça pour que l'enfant s'en souvienne. Ça reste...
Mais attention, j'ai pas fait honte, par exemple.
Mais non, c'est pas fait... Mais non, c'est pas ça que j'ai dit pas en tout.
Non, mais juste parce que là, ça vient de rentrer. Là,
il y a juste mis un tutu rose.
T'as fait honte à tes enfants. Non, j'ai attendu que le match commence. Pour être sûr et certain qu'il ne voit pas ses amis avant le match, pour que ses amis disent hey, « Comment ça, tu joues pas avec nous autres? »
Oui, c'est ça.
J'ai attendu que le match commence, puis après ça, j'ai monté sur le petit alu, puis il a regardé ses amis jouer au deck. Pis ses amis étaient concentrés sur ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire s'amuser. Puis à un moment donné, il y en a un qui l'a reconnu, ils se sont envoyés à main, puis on est resté là juste une période.
Mais
là, j'ai dit « Tu comprends-tu ce que je te dis? Si tu n'agis pas comme faut que ta grand-mère la prochaine fois, tu joueras plus au hockey. »
C'est s'adapter à un comportement la prochaine fois que tu vas lui dire qu'il ne jouera plus au hockey. Lui va se souvenir de la game qu'il a vue assis dans les estrades puis que ses amis avaient du fun puis pas lui. Je pense que c'est normal. Là.
Exact, mais c'est dur pour un père de faire ça. En tout cas, pour moi, c'est dur.
C'est dur de punir un enfant puis voir ton enfant faire une crise de bacon puis pleurer. Là, moi, j'étais la pire pour faire des crises.
Ouais.
Là, puis souvent, ma mère, elle pliait. Des fois, elle pliait pas.
Il a pas pleuré, c'est un tough.
Ah.
Un gars, ça pleure pas.
Ouais, il enseigne son père, quoi.
Non, mais sincèrement, il a pas pleuré. C'est pas grave s'il avait pleuré, là. Mais il a pas pleuré. Donc aujourd'hui, c'est du soleil maximum de 28, humidex de 32. Dan, qu'est-ce qu'il faut savoir dans l'actualité?
Bon, on va commencer en parlant de la napkin. Le projet
napkin
de tramway.
News.
Écoute. Écoute, je
suis tous,
ça va.
Je t'annonce, t'as une heure à faire.
La Ville de Québec a tout fait pour que le BAP ne rende pas public le dossier d'affaires. Ils ont quand même avisé la ville qu'elle allait le faire hier, le 23 juillet. Ça a été fait. Un document périmé. Il y a encore le réseau de trambus, deux tunnels. Écoute, ce que le BAP a rendu public hier, c'est complètement la preuve ultime qu'on est en train de se faire embarquer dans un des projets qui va être une boîte de Pandore. La Ville de Québec a déposé un projet dans lequel il y a le trambus, les liens mécaniques pour monter en haut, deux tunnels alors qu'on a déjà annoncé qu'il n'allait en avoir rien qu'un, les chiffres sont pas bons, les montants sont pas bons, en fait, tout est tout croche. Jean-François Gosselin qui a réagi hier en disant c'est un manque total de respect envers la commission. Je rajouterais que c'est un manque total de respect envers la population et les pays orthodoxes de la Ville de Ville de Québec. C'est un désastre. On s'en va vraiment vers un désastre annoncé pour ce qui est du tramway.
Mais Dan, c'est parce que le rapport du BAP, là, c'est ça sur quoi le gouvernement va se pencher pour y aller de l'avant avec le tramway.
Sais.
On a donné quoi, 48 heures à peu près à la gang de la Ville de Québec pour mettre à jour ce fameux rapport-là, ce fameux dossier d'affaires. Bon, on s'est battu pour pas le rendre public, mais...
C'est gênant, ça.
Le BAP a dit, ouais, c'est parce que là, vous avez mis des affaires là-dedans qui ne fonctionnent plus, comme tu viens de mentionner, tu sais. Le centre d'entretien secondaire qui a disparu, les chiffres qui sont complètement différents pour certaines acquisitions, un tunnel de moins... Mais les montants sont toujours là. Les liens mécaniques, station de terminus, exposité, c'est disparu, ça. Mais les montants sont toujours là. Donc, le BAP va avoir un dossier d'affaires qui est carrément incomplet.
Mm-hmm.
Puis, by the way, si je ne me trompe pas, c'est bel et bien disponible sur le site du BAP.
Oui,
là.
C'est disponible. Tout est réglé. Là. Tout est rendu public.
Pour les gens qui aimeraient le consulter. Mais c'est juste pour dire à quel point la Ville de Québec regarde de haut tout le monde qui s'intéresse à ce projet-là. C'est quoi, les gars sont en vacances? puis ils se disent, ben, vous allez l'avoir en 2021, janvier 2021, parce que c'est ça qu'on nous mentionne. Là.
Ou encore, le télétravail, c'est pas aussi efficace qu'on nous le dit.
Régis Labeaume est en vacances présentement. Là. Il voulait pas, c'est quoi, il voulait pas travailler? Pensez-vous que c'est lui qui travaille là-dessus? C'est pas lui qui travaille là-dessus, c'est le bureau du tramway, là.
Ouais, ouais, puis Labeaume est un peu sélectif, là. Le moindrement qu'on critique le projet dans les médias, il sort avec une lettre. Tu l'as vu, la réponse qu'il a donnée à Denis Lessard, là, sur le projet du tramway, tout,
oui.
Dans la presse? Bon, mais c'est ça, il est sélectif, puis en ce moment, je suis contente que la commissaire tienne son bout là-dedans pour le BAP, là, parce que ça prouve encore une fois, on a failli se faire passer quelque chose, là. Au départ, c'est pas supposé être public, cette affaire-là. Là. Puis on voit que c'est botché.
Ben, on voit les raisons pour lesquelles on voulait pas mettre ça public.
Ouais.
On a essayé de faire la passe.
Tu sais, puis Dan, combien de fois tu t'es fait écrire à la station aussi en disant « Arrêtez avec les napkins, arrêtez avec la napkin. » Toute la journée, il y avait des textos qui disaient, en disant « Voyons, un projet d'importance comme ça, c'est impossible, ça a été fait sur le bord de... »
Partait par toi.
J'ai imaginé une œuvre... qu'elle laisse déployer dans le temps puis dans l'espace. C'est-à-dire que l'œuvre, il y a déjà des personnages, trois personnages qui sont visibles, mais que j'ai pas du tout présenté dans les médias sociaux ou quoi que ce soit. C'est un peu une introduction au collage principal. Donc, il y a trois personnages déjà en place à Québec. Moi, j'aime bien que mes œuvres soient découvertes au hasard, dans le fond. Là, c'est vraiment la prémisse du collage principal qui va avoir lieu vendredi matin.
Et pour ce qui est du ruissellement, alors il nous l'a expliqué un petit peu, il a fait une entrevue téléphonique dans les conditions, là, on peut pas être, il faut être à 2 mètres de tout le monde, avec Alain Deneau, que vous connaissez certainement, mm-hmm. Philosophe, qui est très engagé également et qui donc vulgarise beaucoup ses fondements, les fondements économiques là, de la société, il démystifie bien des choses et il explique très, très bien le ruissellement, ce que c'est. Martin Pantois a fait cette entrevue avec lui et c'est une petite balado d'une trentaine de minutes qui se retrouve sur le site bandcamp.com de Martin Pantois. Sinon, si vous voulez voir ou avoir des indices de où sont les œuvres de Martin Pantois, c'est via les réseaux sociaux qu'on le suit, Instagram ou encore sa page Facebook. Et donc, ce dernier grand collage qu'il nous présente aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui là que ça se passe, il nous explique comment il a procédé et avec qui.
À ce projet-là, j'ai eu l'aide d'une vingtaine de personnes qui se sont prêtées au jeu de se faire photographier, sans nommer l'organisme parce que je veux garder la surprise pour la journée. Mais c'est un organisme qui vient en aide à des jeunes. C'est à la fois les intervenants et les jeunes qui utilisent les services de l'organisme qui ont participé à la séance photo. Puis pour la séance photo, ben j'ai fait prendre différents rôles à chacune des personnes. Tantôt, l'intervenant était au sol et c'est les jeunes qui les aidaient à se relever. Tantôt, c'était l'inverse. Tantôt, c'était des jeunes entre eux qui s'entraidaient. Ils ont fait aussi des scènes de chute. Fait qu'ils ont pu explorer, en fait, chacun des rôles.
C'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Ça fait réfléchir, bien entendu. Et donc, aujourd'hui, il m'a donné un indice. Il dit, je peux vous le dire, c'est du côté de Lévis. Mais suivez-le sur les réseaux sociaux. Il va en donner des indices. On pourra voir après aussi ses œuvres si vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc, via Facebook, Instagram. Et pour cette balado avec Alain Dedeau, qui nous explique donc le point de départ de son projet influencé par ce qu'on appelle le ruissellement, il y a le site wartinpantois.bandcamp.com.
Patricia, il faut se dépêcher généralement avec les œuvres de Martin Pantois parce que vous l'avez dit, ce sont des collages et ils finissent par s'abîmer avec le temps. Donc, il y a une durée de vie à tout ça.
Oui, oui. Non, tout à fait, tout à fait. Donc, oui, parce que c'est à l'extérieur, c'est ça, c'est... dire de l'art public, l'art extérieur. Mais c'est vraiment fascinant ce qu'il fait. Il y en a d'autres dans le monde là, qui font un peu dans le même genre. Mais si vous voulez en savoir plus sur lui, c'est vraiment via les réseaux sociaux qu'il faut le suivre.
Merci beaucoup pour la suggestion. Alors, du côté de Lévis, on va surveiller ça aujourd'hui. 6h49, on parle des impacts financiers de la COVID-19, de la pandémie. Semble-t-il que ces impacts-là risquent d'être plus grands pour les femmes, mais aussi pour les jeunes de 18 à 35 ans. Côté planification financière, peut-être qu'il y a des petits manquements. À quoi sont-ils attribuables? Il y a peut-être plus d'anxiété aussi dans ces tranches-là de la population par rapport à la fin qui arrivera un jour, la fin de la prestation canadienne d'urgence qui donne 2000 $ par mois aux personnes qui se sont retrouvées sans emploi en raison de la COVID-19. Il y a un sondage qui a donc été commandé par la firme Raymond Chabot qui nous donne des résultats assez intéressants qu'on aborde ce matin avec Éric Lebel, conseiller en redressement financier chez Raymond Chabot. Bonjour, Monsieur Lebel.
Bonjour, M. Duval.
Dans ce sondage-là, on parle du fait que la planification post-prestation canadienne d'urgence, hein, la planification financière des gens, semble avoir été un petit peu inégale à travers les différents groupes. On dit qu'il y a 71% des répondants au sondage qui ont réfléchi à leurs finances une fois qu'ils n'auront plus la prestation canadienne d'urgence. Mais ce pourcentage-là est plus élevé chez les hommes, 76%, que chez les femmes. 66% des femmes qui auraient déclaré avoir commencé à réfléchir à leurs finances post-prestation canadienne d'urgence. Comment on explique que les femmes aient peut-être moins planifié la suite des choses financièrement?
Les femmes, depuis le début de la COVID, sont très, très impliquées dans les hôpitaux, les CHSLD. Ils côtoient les zones chaudes. Ils sont toujours à risque d'attraper la COVID-19, beaucoup plus que... Tu sais, le milieu de la santé, c'est un milieu où il y a plus de femmes que d'hommes dans ce milieu-là. Et en plus, les femmes, quand ils rentrent à la maison, ils ont leur rôle de mère. Et ils ont été très, très sollicités dans les premiers mois. Et on pense que ça a fait en sorte qu'ils ont eu moins de temps ou d'énergie pour planifier leurs finances. L'écart n'est pas astronomique, mais au niveau d'un sondage, 6-7 points de différence est quand même important. Alors, on pense que c'est le fait qu'ils sont très, très impliqués dans le domaine de la santé qui aurait fait ça.
En même temps, Monsieur Lebel, les gens du domaine de la santé sont au travail. C'est pas majoritairement des gens qui touchent la prestation canadienne d'urgence. C'est plus des gens qui sont susceptibles d'attraper la COVID-19 puis de se retrouver en arrêt de travail pour ça, mais les gens qui touchent la prestation canadienne d'urgence sont pas tant dans les hôpitaux et les écoles, là.
Oui, mais là, on touche à un point. Écoutez, le sondage, il disait que les femmes avaient planifié 66% versus les hommes 75%. Là, vous rajoutez un point technique de la PCU, mais j'ai un blanc de mémoire, là, je pense. J'ai toujours pensé, à moins qu'il l'ait peut-être vu de façon précise, là, j'ai toujours pensé que c'était... On disait tout simplement que les femmes avaient eu le temps de moins planifier leurs finances un peu que les hommes, mais c'était pas nécessairement celles qui touchaient la PCU.
D'accord, mais d'accord. Ben ça, c'est une nuance importante que vous apportez à ce moment-là. Quand on parle de planification post-prestation canadienne d'urgence, là, il y a peut-être des gens qui ont oublié que la prestation, elle est imposable. C'est 2000 $ par mois, mais c'est pas un chèque en blanc. Donc, en avril prochain, quand viendra la prochaine période des impôts, il y a peut-être des gens qui vont se faire rattraper dans le détour, là. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens en termes de planification, les gens qui touchent la prestation particulièrement?
Bien, c'est sûr que si on prend la population, la classe moyenne, si on mettait un taux d'impôt de 25% environ, bien, les gens devraient mettre de côté 500 $ par mois dans un compte à part pour dire, OK, en avril 2021, j'aurai 500 $ par tranche, 2000 $ à verser au gouvernement. Si on reçoit le 12 000 $ de la PCU, bien, on parle d'à peu près 3 000 $.
Oui.
Il faut le prévoir. Mais pour le prévoir, souvent, l'être humain, comment il est fait, bien, pour le prévoir, il faut le mettre de côté à quelque part. Parce que si on lève dans notre compte d'opération, ben il y a des chances qu'on s'en sert pour payer le loyer, payer la nourriture, les vêtements, faire un petit voyage. Alors, ça va être plus difficile si on ne sort pas de notre compte de banque d'opération. Donc, nous, on recommande de le mettre vraiment à l'extérieur. Un peu comme les gens qui ont des acomptes provisionnels à faire avec des travailleurs autonomes. C'est la même chose. Toujours mettre l'argent dans un autre compte séparé. Tu sais, les jeunes, là, pourquoi ils sont plus fragilisés, là? Ben, c'est parce qu'il y en a 50% qui ont dit qu'ils n'avaient pas prévu l'impôt. 50% des jeunes. Alors, c'est sûr que tantôt, ils vont trouver ça un peu moins plaisant au mois d'avril d'essayer de trouver le 3000 $ s'ils l'ont pas mis de côté, là.
À quoi c'est attribuable ce manque de planification-là ou cet oubli que la prestation canadienne d'urgence est imposable? Est-ce que c'est le gouvernement fédéral qui a peut-être manqué un peu dans ses communications? Est-ce qu'on sait si les gens, au moment de toucher la prestation canadienne, il y a aussi un petit mémo qui vient pour leur rappeler que cet argent-là, c'est pas un chèque en blanc?
Écoutez, c'est difficile à dire, mais c'est sûr que nous, on voit beaucoup chez Raymond Chabot des gens, des travailleurs autonomes, qui ont un peu le même phénomène. Et les gens, souvent, tu sais, quand on a un peu de misère, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repousse par en avant, on pèle par en avant. Donc, si tu as un peu de misère, parce que, tu sais, le 2000 $, le monde pense aussi, il y a beaucoup de monde dans le public qui pense que 2000 $, c'est quelque chose de, c'est comme un cadeau. Mais c'est pas un cadeau, parce que c'est 1500 $. Puis, je sais pas si vous le savez, mais au Québec, vive au Québec. Nous, on a une charte du gouvernement. Et vive au Québec, un célibataire, ça coûte 2 200 $ net. Se loger, se vêtir, puis manger. Les besoins de base, là. C'est 2 200 $. T'as pas d'auto, là. Alors, 2 200 $, pas d'auto. Ici, t'as un auto au Québec. Ben, une auto, là, le monde, beaucoup de monde vont dire, ça coûte 300 $ par mois, une auto. Non. Ça coûte 300 $ par mois de paiement. Ça coûte de l'essence, de l'assurance, de l'entretien. Mm-hmm. Donc, les statistiques démontrent qu'une petite auto, c'est 800 $. Donc, là, on est rendu à 3000 net. Mais ils ont 1500 net. Alors, c'est difficile.
Il y a un manque à gagner.
Oui, c'est difficile de vivre avec la PCU et c'est un peu normal que les gens, l'être humain étant ce qu'il est, mais on va pousser par en avant parce qu'ils en ont besoin immédiatement de 500 $ puis ils se disent, mais regarde, je trouverai le moyen d'en économiser durant l'hiver l'année prochaine pour me rendre au mois d'avril. Donc, c'est un peu la situation qui amène ça.
Quelles sont les conséquences possibles que vous envisagez au terme de tout ça? Pensez-vous qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans une situation financière tellement précaire qu'ils vont devoir déclarer une faillite, par exemple?
Ben, si leur problème, c'est seulement cette dette-là, je pense qu'ils vont réussir tranquillement. Est-ce qu'ils vont prendre une entente avec les gouvernements pour payer sur un an, exemple? Parce que les gouvernements, quand t'as un problème comme ça, mineur, sont capables de prendre des ententes de paiement. Maintenant, si ça se rajoute à des cartes de crédit impayées, puis à des retards sur la maison, puis des retards sur l'auto, puis des taxes foncières que j'ai demandé de report aussi aux villes, puis que là, tout ça arrive bientôt, hein, parce que les reports, souvent, pour les institutions, ils ont accordé comme 6 mois environ, la plupart, pour que ce soit les taxes, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit les paiements d'auto-maison, et ça arrive fin septembre, mais 6 mois, là. Fait que ça va recommencer, ça aussi. Fait que si quelqu'un n'a pas mis l'impôt de côté, doit recommencer ses paiements à la fin septembre, ça se peut que le problème devienne de plus en plus important, là. Et si jamais des gens étaient déjà un peu en difficulté avant la COVID, ben ça va juste accentuer leur problème. À ce moment-là, ben, il faut qu'ils consultent au plus vite un professionnel comme un syndic, là, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Alors, c'est un appel à la planification, certainement, parce que avril prochain, ça vient vite. Je le signale, c'est un sondage qui a été commandé par Raymond Chabot, qui a été mené en plein milieu de la pandémie, au milieu du mois de mai dernier. C'était en ligne, 800 personnes qui ont répondu à ce sondage-là. Éric Lebel, je le rappelle, vous êtes conseiller en redressement financier chez Raymond Chabot. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
C'est un plaisir, M. Duval.
Bonne journée, au revoir.
Bye-bye.
Martin, je vous avais devant moi, puis je me suis mélangé de nom. Pas facile ce matin, c'est vendredi,
pas
ça
facile.
Paraît.
Je pars pas en vacances, moi. Il me reste une
moi
semaine.
Non plus, il m'en reste 3.
Le Québec enregistre 142 nouveaux cas de COVID-19 dans le plus récent bilan, dont 3 proviennent de la région de la capitale. Dans Chaudière-Appalaches, on compte 1 cas supplémentaire. Il n'y a toutefois aucun nouveau décès. Pas seulement dans Québec et Chaudière-Appalaches, là, dans tout le Québec.
On a 17 degrés sur la rue Saint-Jean. Belle journée devant nous. Ce sera 28 au thermomètre aujourd'hui. Plein soleil sur Québec. Vous allez pouvoir en profiter. Vous allez pouvoir en profiter, oui, abondamment toute la journée. À 7h15, on s'entretient avec Serge Arsenault, président des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, qui ont été annulés. C'est une annonce qui a été faite hier, en début de journée.
Tous les matins, 7 jours sur 7, pour bien préparer votre journée, la Une ici Québec. L'essentiel de votre info régionale dans votre boîte courriel. Abonnez-vous dès maintenant sur radiocanada.ca/Québec.
Ici Jeannick Tremblay. La pandémie a révolutionné le télétravail. Et travailler de chez soi, ça occasionne des dépenses. SAC pour réduire vos impôts l'an prochain.
L'heure du monde. Aujourd'hui 18h, Maritime 19h. Ici Radio-Canada Première. Au 106.3, à Québec. Du cœur aux idées.
Ce matin au Radio-Journal, l'Ottawa lance une enquête sur le climat de travail à Rideau Hall. Des Marocains autorisés à s'installer au Canada demeurent coincés dans leur pays.
On se retrouve là maintenant avec des documents expirés.
et surtout aucune visibilité sur l'avenir.
Et des milliers de musulmans réunis pour la prière dans l'ex-basilique Sainte-Sophie à Istanbul, devenue mosquée. Bonjour, ici Bruno Larose. Y a-t-il un climat de travail toxique au sein du bureau de la gouverneure générale Julie Payette? Le bureau du conseil privé de Justin Trudeau a décidé de se pencher sur la question. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante 2 jours après la diffusion de témoignages troublants sur CBC. Diana Gonzalez, la pression était forte sur Ottawa pour faire la lumière sur ce qui se passe à Rideau Hall.
Oui, Bruno, et il y aura finalement une enquête approfondie, indépendante et impartiale. C'est ce qu'a promis le bureau du conseil privé. Et tout ça à la suite des témoignages d'anciens employés, d'employés actuels aussi, qui font état de harcèlement, d'abus verbal au bureau de la gouverneure générale. Alors, le bureau du conseil privé précise qu'il aura recours au service d'un tiers indépendant pour mener cette enquête et précise aussi que le harcèlement n'a pas sa place dans un milieu de travail professionnel. Il dit aussi avoir l'appui du bureau de la gouverneure générale dans la démarche. Et Julie Payette, qui a même réagi sur Twitter, elle écrit que tous les employés qui travaillent à Rideau Hall doivent bénéficier d'un environnement de travail sain et sécuritaire en tout temps et en toutes circonstances. Elle précise même qu'elle a demandé la conduite d'un examen indépendant.
D'autant plus, Diana, que d'autres témoignages à charge pour la gouverneure se sont ajoutés ces dernières heures.
Voilà, CBC a recueilli les témoignages d'autres ex-employés. Ils disent avoir quitté leur emploi en raison du climat de travail toxique. Donc, il y a au moins 16 sources anonymes qui se sont confiées à nos collègues de CBC. Ils font état d'humiliation, de dénigrement. Et pour ce qui est du bureau de Julie Payette, eh bien, on réfute toutes ces allégations.
Merci, Diana.
Au revoir.
Chez nous maintenant, la pression est de plus en plus forte sur le ministre fédéral des Finances pour qu'il quitte son poste. Le Bloc québécois a joint sa voix à celle des conservateurs pour affirmer que Bill Morneau n'a plus l'autorité morale pour exercer ses fonctions. Convoqué par un comité parlementaire mercredi, le ministre a révélé qu'il venait de rembourser des frais de voyage de 41 000 $ à l'organisme Uni après 2 ans. L'organisme de charité a obtenu récemment un contrat pour gérer des bourses de bénévolat étudiants de 900 millions de $ avant de s'en retirer. Québec donne un peu de souffle à l'industrie de la culture. Il fait passer de 50 à 250 le nombre maximal de personnes permises lors d'événements dans les lieux publics intérieurs ou extérieurs. Une mesure qui doit entrer en vigueur le 3 août. Chez les acteurs du milieu, la nouvelle est généralement bien accueillie. Voici Patrick Rozon du groupe Juste pour rire et Éric Bouchard de la Corporation des salles de cinéma du Québec.
Cette annonce-là, pour nous, est très importante. D'avoir les gens qui rient de les entendre, ça devient plus intéressant que strictement d'avoir 50 personnes. Donc, je pense que pour les artistes, ça va être positif.
Vous voyez, comme ici, on a une salle de 400 personnes. Est-ce que ça nous amène à 250? On devrait être pas loin de ça, là. Mais c'est certain que pour les propriétaires qui ont des petites salles, ça fait pas de différence.
Mais le gouvernement Legault maintient la limite à 10 personnes dans les résidences privées et les chalets. Comment savoir si vous avez été infecté par le virus qui cause la COVID-19 sans passer de test de dépistage? Eh bien, il existe un moyen, le test sérologique, qui permet de détecter la présence d'anticorps spécifiques à la maladie dans le sang. Le Nouveau-Brunswick offre maintenant la possibilité à certains résidents de subir un test sérologique. Mais attention, son efficacité est mise en doute. Précision, Rose Saint-Pierre.
Depuis 7 semaines, le Centre de référence diagnostique virologique du Nouveau-Brunswick offre 2 tests sérologiques pour détecter la présence d'anticorps à la COVID-19. Ces tests sanguins permettent de déterminer qui a été infecté par le coronavirus, explique le docteur Gabriel Girouard, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier universitaire Georges Dumont.
Le test sérologique nous permet de voir la présence d'anticorps qui sont, dans le fond, une cicatrice immune, donc qui nous informe sur le passage du virus.
Pour l'instant, ces tests ne seront pas offerts au grand public. On les utilisera dans certaines situations cliniques précises si le test est utile à des fins diagnostiques.
Pour la prise en charge de certaines conditions qui surviennent dans le décours de l'évolution de la maladie. Classiquement, le syndrome inflammatoire systémique, ça qu'on voit chez les enfants, par exemple, avec le fameux syndrome des orteils bleus.
Le ministère de la Santé indique que l'utilisation massive de ces tests est écartée pour l'instant, puisque son efficacité est encore questionnée.
La signification même du test à ce jour n'est pas complètement bien comprise.
Ailleurs au pays, des tests du genre ont été utilisés pour donner un portrait d'immunité d'une population. Ainsi, en Colombie-Britannique, la première étude basée sur des tests sérologiques a permis de découvrir que le nombre d'infections est 8 fois plus élevé que ce qui avait été annoncé par les autorités. Ici Rose Saint-Pierre, Radio-Canada, Moncton.
Un rêve qui tourne à la déception. Une 60aine de familles marocaines qui ont obtenu le statut de résident permanent admis au Canada se trouvent coincées dans leur pays depuis le début de la pandémie. Le Canada a prolongé leur visa, mais ces Marocains sont incapables d'obtenir les documents nécessaires à leur voyage. Catherine Brulot a les détails.
On était tous prêts à partir, on était ready to go.
Karim, sa femme et leur fille avaient fait leurs valises, quitté leur logement, leurs emplois, l'école. 2 ans après le début de leur démarche, ils étaient enfin prêts à prendre l'avion vers le Canada pour débuter leur nouvelle vie lorsque la pandémie de COVID-19 a forcé la fermeture des frontières.
On se retrouve là maintenant avec des documents expirés et surtout aucune visibilité sur l'avenir.
Une 60aine de familles sont dans la même situation. Ils ont déjà été reçus comme résidents permanents admis au Canada, mais sont incapables de s'y rendre pour valider leur statut. Le Canada a pourtant prolongé leur visa. Le problème, c'est que l'ambassade canadienne au Maroc n'est pas en mesure de leur fournir les autres documents dont ils ont besoin.
L'ambassade du Canada au Maroc et en Mauritanie est maintenant fermée.
Nos appels et courriels à l'ambassade sont demeurés sans réponse. Dans une déclaration, le bureau du ministre de l'Immigration affirme chercher des moyens innovants afin de supporter et aider les personnes qui sont en démarche d'immigration, tout en suivant les conseils des experts en santé publique. Mais les délais sont difficiles pour les familles comme celle d'Abiba.
On ne peut pas aujourd'hui chercher du travail parce que je sais à l'avance que je vais partir et en même temps, dans l'obligation de trouver une source de revenus.
Certaines de ces familles se demandent si leur rêve canadien ne risque pas de s'envoler avant eux. Ici Catherine Brulotte, Radio-Canada, Toronto.
L'ancienne basilique Sainte-Sophie d'Istanbul a officiellement perdu sa neutralité. L'appel à la prière du vendredi a de nouveau fusé du haut de ce monument chargé d'histoire pour la première fois en 86 ans. Elle avait été transformée en musée en 1934 par le président laïc Mustafa Kemal, mais le chef d'État conservateur Recep Tayyip Erdogan l'a retransformée en mosquée. Il est d'ailleurs présent pour cette prière inaugurale. Marie Gégaud est à Istanbul. Marie, des dizaines de milliers de fidèles sont présents malgré la COVID-19.
Oui, c'est ça. Tout le quartier a été bouclé. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui va prier à Sainte-Sophie aujourd'hui, veut en faire un événement historique. Et donc, pour lui, c'est très important. C'est pas seulement une prière, c'est aussi un défi qu'il lance au monde chrétien, au monde occidental.
Marie, cette décision de rendre la cathédrale au culte musulman, ça a attiré les foudres des dignitaires chrétiens. Alors, pourquoi le président a-t-il pris cette décision-là?
Pour lui, c'est important. C'est cohérent avec son objectif affiché depuis des années. Il veut d'abord islamiser la Turquie au mépris des fondements laïcs posés par le père de la République, Mustafa Kemal Atatürk, en 1923. Il veut également montrer à l'Occident à quel point la Turquie est le défenseur du monde musulman sunnite. Alors, en faisant ça, en convertissant Sainte-Sophie en mosquée, Erdogan veut marquer le basculement de son pays. Il veut montrer qu'on va maintenant avoir affaire à une Turquie plus islamisée, éloignée de l'Europe et plus agressive aussi militairement sur la scène internationale.
Marie Gégaud à Istanbul, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Le coup d'envoi de la saison du baseball majeur a été donné hier soir à Washington par le lancer du Dr Anthony Fauci. L'expert américain en matière de maladies infectieuses a procédé au lancer protocolaire avant le match entre les Yankees de New York et les Nationals de Washington, les champions en titre de la Série mondiale l'an dernier. En raison de la pandémie, la saison a été écourtée à 60 matchs. Le Dr Fauci, qui portait le masque devant des estrades vides, a envoyé la balle très loin du marbre, mais il a pris la chose en riant. Voilà, c'était le Radio Journal. Pour plus de détails et d'autres nouvelles, notre application Info ou encore notre site radiocanada.ca. Dans un petit moment, la suite de votre émission du matin.
retour à l'émission Première Heure. Je m'appelle Alexandre Duval. Bienvenue ou re-bienvenue. Il est 7h10, vendredi 24 juillet. Beaucoup de sujets à aborder encore une fois aujourd'hui dans l'actualité. Le Dieu des nouvelles qui ne nous lâche pas d'une semelle cet été. On va parler avec Serge Arsenault dans quelques instants. C'est le président des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Malheureusement, hier, on a appris que les Grands Prix n'auraient pas lieu cette année. Vous savez pourquoi? Pandémie, COVID-19. Ça a fait en sorte que c'était difficile de respecter les règles sanitaires qui étaient obligatoires, bien entendu. Des équipes aussi, semble-t-il, qui commençaient déjà à se désister en prévision de ces épreuves-là qui étaient prévues respectivement le 11 et le 13 septembre. Alors, on en parle dans quelques minutes avec Serge Arsenault. Martin Boucher, Marc-André Boivin, Patricia Tadros, quand on parle de vaccin pour se prémunir contre la COVID-19, commencez-vous des fois à être un petit peu mélangé? Où est-ce qu'on est rendu? Quel pharmaceutique? Quelle phase d'essai? Qui va y arriver en premier?
Ben, des fois, moi, je me demande, est-ce qu'on va avoir un vaccin?
C'est une bonne question.
Elle est légitime.
Mais ça s'aligne bien.
Personnellement, je suis pas tant l'échéancier. J'attends juste qu'on me dise à quel endroit me le procurer.
Mm-hmm.
Quand ça, oui, c'est la misère avec le fait qu'on en fait une espèce de compétition entre les pays, alors que je trouve qu'on devrait peut-être un petit peu plus collaborer, me semble.
Je pense
que c'est pour le bien de tout le monde.
Oui, je pense que c'est important de l'aborder ce matin, ce sujet-là, parce que il y a beaucoup de confusion qui entoure ce milieu-là, le développement des vaccins, qu'est-ce qu'on fait, où ça se passe, qui est en avance, qui est en retard. On parle souvent dans la région de Québec ici de l'initiative de Medicago GSK. Et ben oui, ils sont avancés là parce qu'ils ont franchi évidemment la toute première étape là, qui est celle de l'évaluation préclinique, et on entre dans la phase 1 qui est celle des premiers essais cliniques sur environ une centaine de volontaires.
Au pays, je pense que c'est CanSino qui est en avance sur à peu près tout le monde. Ils sont dans le coin d'Halifax. Puis je me demande s'ils en sont pas à la phase 2 à Halifax. Et, pardon, comme c'est un partenariat entre le Canada et la Chine, en Chine, ils en sont à la phase 3 déjà. Donc, c'est très avancé pour CanSino.
Vous allez pouvoir avoir ces réponses-là, Martin Boucher, chanceux que vous êtes, parce que nos collègues Émilie Chung et Naël Chiab de Radio-Canada ont concocté un dossier qui sera mis à jour périodiquement en ligne. Et ça, ce serait très, très utile pour les auditeurs et les auditrices, parce qu'on utilise les rapports de l'Organisation mondiale de la santé pour dire au public où est-ce qu'en est rendu le développement de telle initiative de vaccin, telle initiative de vaccin. Alors, ce qu'on apprend ce matin, c'est qu'il y a 142 vaccins qui ont franchi l'étape numéro 1, qui est l'évaluation préclinique, donc les premiers tests chez les animaux. Ensuite, il y en a 24 qui sont à la première étape, ça c'est Medicago, l'étape des essais cliniques sur environ une centaine de volontaires. Ensuite de ça, la deuxième étape qui va un petit peu plus loin, là on parle de quelques centaines de volontaires pour recevoir ce vaccin-là, voir quels sont les effets secondaires, comment réagit le système immunitaire. Il y a 15 équipes pharmaceutiques dans le monde qui sont rendues à cette deuxième étape. Et l'étape 3, qui est l'avant-dernière, qui là constitue en des tests sur des milliers de personnes pour s'assurer que le vaccin est efficace, même chez les personnes qui sont les plus susceptibles de tomber malades, donc les personnes qui ont peut-être un système immunitaire un petit peu plus faible. Il y a seulement 4 équipes pharmaceutiques qui sont à cette étape-là, l'avant-dernière, et l'étape de l'approbation, l'étape ultime, c'est encore 0, bien entendu. Il y a personne qui est rendu là, sauf qu'on explique aussi dans cet article en quoi consiste chacune des étapes. Donc, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Il y a un palmarès très, très clair de à quel endroit, quelle équipe se trouve au moment présent. Et on explique aussi les différents types de vaccins, parce que chaque pharmaceutique n'a pas exactement le même objectif. Ce qui laisse croire aussi que peut-être certaines parties de la population avec certains profils cliniques pourraient davantage utiliser un type de vaccin qui pourrait être plus efficace dans leur cas. Alors, Marc-André, vous parliez potentiellement de compétition entre les divers pays, entre les diverses équipes, ben il y a aussi ça. Sachant qu'on développe différents types de vaccins, il pourrait être utile dans différentes circonstances auprès de différentes parties de la population. Alors, il y a ça qui est très intéressant aussi dans cet article-là. Rendez-vous sur notre site web, rendez-vous sur notre application, puis mettez ça dans vos favoris. Ce sera utile dans les prochaines semaines si vous voulez voir à quel endroit on en est rendu. À la météo, juste le temps de vous souligner que ce sera une belle journée. 17 degrés déjà sur la rue Saint-Jean. C'est très, très doux ce matin, très confortable. Ça va grimper jusqu'à 28 au thermomètre, 32 au ressenti avec le facteur humidex. Pas de nuages dans le ciel de Québec vraiment aujourd'hui. Là, vraiment plein soleil. C'est ce soir et cette nuit que les nuages vont se mettre de la partie. Minimum de 15 degrés. Pour la fin de semaine, vous n'avez pas à vous inquiéter, du moins pour l'instant. Ce sera de la stabilité. 28 degrés samedi, 28 degrés dimanche. Plein soleil demain samedi. Par contre, dimanche, des nuages, mais pas de risque de précipitation pour l'instant. Alors, vous pourrez en profiter amplement de cette fin de semaine. Marc-André, à la circulation, est-ce qu'on a des choses à préciser pour nos auditeurs auditrices ce matin?
C'est plutôt calme pour l'ensemble du réseau routier. Pour la Rive-Nord, on a Henri IV direction Nord, où c'est un petit peu plus compliqué. D'abord, dans la bretelle Charest-Est. Pour Charest-Est, hauteur Henri IV, il y a un léger ralentissement de ce côté, mais aussi entre Amel et Félix-Leclerc. C'est un petit peu plus dense à cette heure-ci. Pour Félix-Leclerc, dans les deux directions, ça roule bien. Pas de problème majeur non plus là pour la rive sud où l'approche des deux ponts se fait assez facilement. Il y a la route du président Kennedy où ça commence à être un petit peu plus dense là à la hauteur de l'autoroute 20. On a des travaux dans le secteur qui compliquent la circulation à chaque jour. Alors, ça commence de ce côté à être un petit peu plus dense également.
Martin, aux nouvelles.
La Couronne va poursuivre la présentation de ses arguments aujourd'hui dans le cadre de la requête en arrêt des procédures de Nathalie Normandeau et de ses co-accusés. Ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'on est dans une question, on s'interroge sur les délais dans ce procès-là. Et au départ, pour la requête en arrêt des procédures, on avait prévu 3 jours et ça va être encore plus long. Là, on a déjà dépassé 3 jours et on va aller jusqu'à la semaine prochaine.
Et peut-être même au-delà, dépendamment de la disponibilité des parties. Je disais hier à notre collègue Marc-Antoine Lavoie qui est au Palais de justice, Marc-Antoine, préparez-vous. D'après moi, vous allez coller au Palais de justice de Québec un petit bout de temps. Là.
C'est une possibilité. C'est des délais dans les délais. Là. C'est à peu près comme ça qu'on peut voir la chose. Hier, la Couronne a fait valoir que elle n'était pas responsable des longs délais causés dans ce procès de l'ex-vice-première ministre, que les fuites à l'UPAC, la Couronne n'en était pas responsable, que à la limite on pouvait attribuer à la Couronne la responsabilité de 20 de délais comparables à ce que la défense elle-même a causé comme délai, donc il y avait rien de déraisonnable, ou en tout cas, c'était dans l'ordre des choses, parce que on invoque l'arrêt Jordan de la Cour suprême. La Cour suprême a dit, dans le cadre d'un procès en cours du Québec, entre l'arrestation et le procès, il doit y avoir à peu près 18 mois. Il y a des exceptions. Tout le monde fait valoir que ce procès-là est complexe, qu'il y a beaucoup d'accusés, et qu'on est justement dans l'exception. Il y a une première requête en arrêt des procédures, d'ailleurs, qui avait été rejetée parce que le juge avait dit « c'est un dossier complexe, c'est normal qu'on en soit plus loin que les 18 mois prescrits par la Cour suprême ». Et là, on dit 57 mois, c'est le délai entre l'arrestation de Nathalie Normandeau en mars 2016 et maintenant. Là, on a dépassé toutes les bornes et ce procès-là doit être arrêté. C'est la prétention de l'avocat de Nathalie Normandeau et des autres co-accusés. Mais là, la Couronne dit pas tant que ça, là. C'est peut-être dans l'ordre des choses compte tenu de la nature de ce procès-là et du fait qu'il y a 6 personnes qui doivent subir un procès en même temps.
Oui, puis du fait qu'on a tenté aussi de faire en sorte que Marie-Maude Denis soit obligée de révéler ses sources dans l'affaire des fuites médiatiques. Donc, la Couronne dit, attendez, les délais dans le procès sont pas attribuables à la poursuite, sont peut-être attribuables à tous ces développements-là en lien avec les fuites médiatiques, l'UPAC, etc. Donc, c'est pas un dossier simple et vous allez forcément en entendre parler encore dans les prochains jours parce que ça se poursuit au Palais de justice.
Ouais.
Merci, Martin. Patricia, suggestion culturelle pour nous.
Au cinépark Jean Talon, ce soir, Marjo à 20h. Alors, j'espère qu'il y aura du monde. 150 voitures permises pour le marché Jean Talon. Il y a Jonas du côté du Capitole. Alors, on présente en formule le souper spectacle, des spectacles au confessionnal au Capitole de Québec. Et également, il y a Louis-José Houd et Neve à nouveau ce soir et demain, 2 représentations par soir au Petit Champlain. Et je voulais glisser un mot sur Justin Bieber qui a annoncé sa tournée, qui a été annulée, reportée. Donc, il a annoncé que sa tournée de 45 concerts sera lancée le 2 juin 2021 à San Diego, aux États-Unis. Ensuite, les concerts de Toronto auront lieu les 3, 16 et 17 juillet, Ottawa 5 juillet, Montréal 6 et Québec. Il n'y en a pas pour l'instant.
Ah.
Alors, c'est dommage parce qu'il y avait prévu un concert à Québec. Hein,
ben
il devait
oui.
chanter à Québec au mois de septembre, le 3 septembre prochain. Mais dans l'annonce qu'il a faite hier, dans les 45 concerts, donc cette tournée qu'il entreprend, le 2 juin prochain 2021, il n'y a pas Québec sur la liste.
Eh bien, on se reprendra peut-être à sa prochaine tournée ou qui sait, peut-être qu'il y a une date qui s'ajoutera pour la capitale. Merci beaucoup, Patricia. Parlant d'annulation d'événements, eh bien, l'incontournable dans l'actualité de la région actuellement, c'est les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Hein. L'annonce qui a été faite hier, cet événement-là, qui ne pourra pas avoir lieu. C'était prévu à Québec le 11 septembre et c'était prévu à Montréal le 13 septembre prochain. Malheureusement, l'organisation qui a décidé de faire un trait sur l'événement pour cette année, c'est la première fois depuis 2010 qu'il n'y aura pas de Grand Prix cycliste à Québec. Serge Arsenault, président des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, est au bout du fil ce matin. Bonjour, M. Arsenault.
Bonjour.
Alors, vous avez dit hier notamment que ce n'était pas possible de répondre à toutes les exigences sanitaires pour tenir cet événement-là en bonne et due forme. À quel endroit le bas blessait exactement? C'était difficile pour quelles règles exactement?
Ben, écoutez, je dois vous dire que premièrement, la règle de nombre de spectateurs, de distanciation, également toutes les restrictions du côté de la santé, non seulement pour le public, pour les coureurs également, puisque c'est 250 personnes, plus tout l'environnement, 1000 bénévoles et employés qui y travaillent. Et la quarantaine était également une embûche majeure parce que il n'y a aucune équipe internationale qui pourrait être bloquée ici à une semaine des championnats du monde à cause d'une quarantaine qui est toujours imposée. L'incertitude dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, il faut bien comprendre que fin juillet pour nous, c'était le temps de garantir des dépôts, autant pour le transport aérien. Vous savez, c'est deux quand même grands porteurs qui amènent les équipes et le matériel. C'est un peu la Formule 1 sur deux roues, les hôtels également, l'hébergement pour tous ces gens-là. Et de plus en plus en Europe, j'ai parlé longuement avec le président de l'UCI, avec les équipes, il va probablement s'installer une règle qui va stipuler que toutes les équipes devront s'abstenir de toute participation à des courses à l'extérieur de l'Europe, parce que ça devient trop compliqué du point de vue sanitaire. Il faut comprendre qu'en Europe, les coureurs sont dans leur bus d'équipe, donc il y a une bulle. Ce sont de petits hôtels, de petits établissements pour l'hébergement. Les courses se déroulent environ à 100-150 km de distance. C'est la petite Europe cycliste. Donc, il y avait ça. Il y a une question de responsabilité. La décision a été prise avec les partenaires également. Nous étions en début de semaine à Québec avec les responsables, évidemment, de la ville. Et eux étaient parfaitement d'accord avec nous. Et c'est la même chose avec la ville de Montréal et le gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, même nos partenaires privés. Il faut quand même, à un moment donné, être au-dessus de l'événement sportif et penser à la sécurité de tous. Et d'emblée, il faut savoir aussi que les dates des Grands Prix de Québec et de Montréal sont des dates garanties lorsqu'on est au sommet de la hiérarchie des courses cyclistes. Donc, on paralysait complètement tout un secteur cycliste en Europe pour cette période-là, parce que les équipes devaient prévoir l'encadrement, les équipes, le transfert sur Montréal. Et ces équipes-là, encore des coûts quand même relativement élevés. C'est-à-dire que, bien sûr, tout le monde est rassemblé à Québec, pas à Québec, c'est-à-dire à Paris pour le départ, qui les amène à Québec. Mais eux partent du Kazakhstan, de l'Italie, de l'Espagne, de partout, avec leurs camions, avec le matériel et tout ça. Et en plus, ils ne pouvaient pas prévoir des participations d'autres courses tant et aussi longtemps que notre décision serait rendue.
Oui.
Donc, pour nous, c'était l'inévitable, vous savez. Malheureusement, il n'y a aucune planète qui était bien enlignée. Et d'un accord commun, on a décidé Pour toutes ces raisons, mais la raison principale, évidemment, c'est très simple, ce sont des dommages collatéraux de la pandémie qui existent, l'incertitude complète quant au 8 septembre, et à un moment donné, il a fallu être un peu responsable envers, évidemment, le grand public, à cause de la santé publique. Le docteur Arruda et son groupe, ils ont bien souligné que c'était pratiquement aucune chance qu'on puisse présenter. Imaginez oui. tenter d'avoir une distanciation dans la cour de la montagne.
Mais vous avez eu des discussions avec la santé publique, justement, et on comprend que finalement, votre décision, elle s'imposait d'elle-même. Par contre, je me pose tout de même une question. Il y a certains sports, comme par exemple le hockey, qui doivent reprendre bientôt, séries éliminatoires, etc., sans public. Est-ce qu'il n'aurait pas été envisageable de tenir un Grand Prix sans public, justement pour protéger la population, tout en ayant tout de même certains cyclistes sur le parcours qui puissent participer à la compétition comme prévu?
Ben écoutez, c'est fort simple. Le cyclisme est un sport avec deux acteurs principaux, c'est-à-dire les coureurs et le public. Et le public est réellement, contrairement à d'autres sports, le carburant du coureur, c'est pas une vue de l'esprit quand je le souligne souvent. Et bon, il y a ça premièrement, mais il faut protéger les coureurs. C'est un peloton qui serait tout simplement enfermé dans un avion pendant à proximité. Alors, les grands, le hockey, c'est très différent. Parce qu'ils sont dans un hôtel, ils ont X temps de match, pas de spectateurs, et les équipes peuvent être isolées par équipe. Tandis que nous, le principe de Montréal et Québec, qui est unique au monde, c'est toutes les équipes sont dans le même hôtel. L'hébergement, la nourriture, tous ces équipes-là doivent s'entraîner également à l'extérieur, pas à l'intérieur, comme on peut aseptiser un aréna. Et encore là, c'est juste une question de décence et de respect. Premièrement, pour les individus, d'ici et d'ailleurs. Deuxième truc, c'est ce qui est majeur, c'est la santé publique. Mm-hmm. Et force est d'admettre que rassemblement plusieurs dizaines de milliers de personnes, et c'est presque impossible, vous savez, de contenir avec une distanciation prévue un public de la sorte. Ça va être même un gros problème au Tour de France. Si le Tour de France est présenté, il est encore prévu. Oui. Juste hier, en Europe, les trois derniers jours, il y a eu 5 événements qui ont été annulés pour ces mêmes raisons. Donc, non, je pense que les coureurs sont déçus. Il est évident que jamais on a eu une situation au Canada avec tant de raisons d'être fier dans le monde cycliste. Parce que quand on regarde les participations québécoises ou canadiennes, les professionnels qui sont rendus oubliés au niveau, Hugo Hull, Antoine Duchesne, Alexandre Catafor, James Ciccoli, Michael Wood, Guillaume Boivin, tous ces gens-là sont rendus des professionnels au plus haut niveau, nous représentent, et j'ai déjà reçu des messages de Hugo et d'Antoine, et d'autres, même Michael Matthews, qui disait que c'était terriblement triste pour eux, puisque c'est le rendez-vous annuel le plus apprécié. Donc, on doit remettre à l'an prochain, c'est avec tristesse. Par contre, on doit penser également qu'on n'est pas différent de tous nos autres collègues, que ce soit dans le monde du spectacle, de la restauration, oui, oui. Évidemment, de toute l'entreprise, toutes les industries.
C'est pas une situation unique, Monsieur Arsenault. Ça, tout le monde en est bien conscient. Puis ça s'inscrit dans la logique des choses là. Par contre, vous avez abordé la question du Tour de France qui a été reporté du 29 août au 20 septembre prochain. Le Tour de France qui, s'il se tient bien sûr, aurait lieu en même temps qu'aurait dû avoir lieu le Grand Prix cycliste de Québec et le Grand Prix cycliste de Montréal. À quel point ça peut être un facteur qui a joué dans votre décision? Parce que nécessairement, un Tour de France qui se tient en même temps que l'événement de Québec, ça veut peut-être dire certains cyclistes qui sont pas à Québec, ça veut peut-être dire un petit peu moins de visibilité médiatique aussi.
0%. Aucunement. Vous savez, les Grands Prix de Québec et Montréal, premièrement, dans une équipe cycliste, faut bien comprendre qu'il y a de 24 à 28 cyclistes. 7 sont retenus pour le Tour de France, mais encore là, l'équipe du Tour de France va être composée d'un leader, bien sûr, mais il y a toujours maintenant 2 ou 3 leaders par équipe, et ensuite, l'équipe est formée en fonction des parcours, des difficultés, parce qu'il faut avoir différentes qualités. Les parcours de Montréal et de Québec, également, sont des parcours très spécifiques qui demandent des qualités très particulières. Et depuis 2010, ce ne sera pas le cas l'an prochain, tiens, pour la première fois, nos Grands Prix avaient lieu en même temps que le Tour d'Espagne. Et pourtant, tout le peloton était ici dans une qualité exceptionnelle. Vous avez reçu le public et tout le monde depuis 10 ans, tous les plus grands du monde. Par contre, le Tour de France, évidemment, je ne renierai jamais que c'est le haut de la pyramide dans le cyclisme, installé seul en tête. Mais à part cela, non, nous, d'aucune façon, puisque on sait, nous, que le Tour de France sera présenté depuis 6 mois, 7 mois, à nos dates, et on a travaillé avec acharnement. Non, d'aucune façon.
Mais en même temps, c'est au mois d'avril, M. Arsenault, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est au mois d'avril qu'on a appris le report du Tour de France à des dates qui seraient concomitantes à celles du Grand Prix cycliste de Québec. Si je
m'abuse. Mais il faut bien savoir que dans le monde cycliste, la période exacte, vous apprenez la nouvelle et vous, les intéressés discutent ensemble, peut avoir une certaine différence
oui,
avant que la décision soit rendue publique.
D'accord.
Mais quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, aucunement.
Ben, c'est bien clair.
Tous les athlètes qui m'envoient des messages actuellement en disant on est tous désolés, on sera là l'an prochain, sont partis. Michael Matthews, c'est pas le dernier venu, et tous les autres. Non, là-dessus, pour nous, ça compte pas.
Monsieur Arsenault.
La preuve, peut-être l'an prochain. L'an prochain, à cause des Olympiques en Asie, évidemment, Tokyo, le Tour d'Espagne sera devancé d'une semaine. C'est-à-dire qu'on sera seul au calendrier.
Oui.
Et je peux vous dire que ça changera pas tellement de choses, parce que les courses de Québec, vous connaissez le parcours, c'est spécifique à des puncheurs, à des athlètes qui ont une qualité très spécifique, et le leader a besoin également de combattants comme Hugo Hull, comme Deschênes, parce que le cyclisme est un sport un peu particulier. Un grand leader qui a la grande forme et une équipe exceptionnelle pour l'accompagner avec les qualités pour affronter les deux parcours très différents. Et depuis 10 ans, malgré tous les aléas que le sport peut nous amener, on a toujours eu des participations d'une grande, grande qualité. Et ça vient pas de nous. Alors, si on regarde les articles en Europe, les journalistes, ils le savent fort bien. Et même le président de l'UCI, que Québec et Montréal sont devenus des rendez-vous incontournables.
Serge Arsenault, on a les yeux rivés sur l'an prochain. Les dates sont déjà connues. Ce sera le 10 et le 12 septembre 2021. Alors voilà, on tourne la page et on se dit à l'an prochain. Je le rappelle, vous êtes président des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Serge Arsenault, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour vous, votre temps et salutations à tous.
Seule appli info à télécharger. Parce qu'elle est en temps réel, parce qu'elle vous signale ce qui se déroule dans votre région, parce que l'info y est vérifiée et expliquée. Restez près de l'info d'ici. Téléchargez l'appli info de Radio-Canada. Parce que tout comme vous, il aime être au cœur du monde. Parce qu'il est intéressé par ce qui vous touche. Parce qu'il est près de vous tous les soirs. Bruno Savard vous raconte votre histoire au Téléjournal Québec. En semaine, 18h. Ici Radio-Canada Télé.
Des récits humains et inédits, témoignages de notre territoire. Des personnages forts qui définissent la poésie d'un endroit. Des histoires à découvrir sur la nouvelle plateforme numérique Empreinte sur radiocanada.ca/empreinte.
7h33, Martin Boucher aux nouvelles. L'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec croit que le dossier d'affaires du tramway que l'administration Labeaume a remis au BAP est désuet.
Le Bureau d'audience publique sur l'environnement exigeait la publication du document contenant les détails du projet de tramway. La Ville a remis un document qui date de décembre dernier, alors que le projet a changé, notamment avec l'abandon du volet trambus. Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin.
Dans le dossier d'affaires de décembre 2019, on mentionne encore le phare, le pôle d'échange à Sainte-Foy, les pôles d'échange là, qui devaient être des espaces commerciaux, oui, avec des toilettes aussi, et des deux tunnels. On parle encore du tunnel de Sainte-Foy. Donc, ça n'a rien à voir avec le projet qui est présentement à l'étude au bureau du BAP.
La Ville voulait garder le dossier d'affaires confidentiel au motif que sa publication nuirait aux négociations avec les soumissionnaires. À compter du 3 août, les rassemblements publics de 250 personnes seront permis au Québec. La mesure s'applique surtout aux théâtres, aux salles de spectacle et de cinéma, de même qu'aux salles de location. Par contre, les festivals et les grands événements demeurent interdits jusqu'au 31 août. Cette exception demeure incompréhensible pour l'organisateur de La Petite Affaire, une série de petits concerts prévus à Baie-Saint-Paul. Clément Turgeon ne comprend pas pourquoi son événement a été interdit la semaine dernière.
L'enjeu, c'était de faire un plan sanitaire, mais qui ne gâche pas l'expérience non plus du festivalier. Puis on avait trouvé cet équilibre-là dans de plusieurs façons. Il y avait beaucoup de mini-initiatives qui permettaient ça. Pourquoi des organismes comme nous peuvent pas faire quelques spectacles par jour à 50, mais que là, des rassemblements de 250 en même temps sont permis?
Et les affaires ne sont pas bonnes cet été dans le Vieux-Québec, c'est le moins qu'on puisse dire. Le quartier est déserté par les touristes en raison de la pandémie. Certains commerçants parlent même d'une baisse de leur chiffre d'affaires de 90 %. Dans les hôtels, le taux d'occupation ne dépasse pas 50 % depuis le début des vacances. Les restaurateurs peinent aussi à tirer leur épingle du jeu. Steve Bissonnette est propriétaire du pub d'Orsay.
On peut pas comparer ça à une saison normale. En pourcentage, on est en bas de 30 % d'achalandage en ce moment, là, vraiment. Là. Ici, normalement, là, on dérougit pas de la journée. L'imprimante commence à 11h30 le matin jusqu'à 11h le soir. C'est ça l'habitude d'un été au Dorsay. On a un emplacement clé, on est sur le coin d'une place qui a des spectacles, ça roule à côté. Mais là, cette année, là, c'est différent. On est en bas de 30 %.
Il y a un peu plus de gens depuis le début des vacances de la construction. Tout le monde redoute un peu l'après-vacances de la construction. On craint que ça retombe au niveau de ce que c'était au mois de juin, où là, tout le monde a constaté qu'il se passait quelque chose et c'était pas nécessairement agréable.
Merci, Martin.
Plaisir.
Un petit mot de météo encore une fois. 18 degrés maintenant sur la rue Saint-Jean. On va encore gagner 10 degrés au cours de la journée pour atteindre 28 comme maximum. Plein soleil sur la région. Belle journée en perspective à Québec. Un petit peu d'humidité, 32 au ressenti avec le facteur humidex. Ce soir et cette nuit, des nuages qui vont s'installer dans le ciel de Québec, mais ce sera de courte durée parce que demain samedi, encore une fois, un ciel dégagé, plein soleil, 28 degrés encore une fois, 33 avec le facteur humidex et dimanche, quelques nuages, mais pas de précipitations prévues pour l'instant. Alors, du beau temps en perspective à Québec et on en profite dès aujourd'hui. 7h37, une nouvelle qui est tombée hier et qui fait jaser depuis, c'est celle de l'élargissement du nombre de personnes qui peuvent se rassembler en public à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est plafonné à 50 personnes actuellement, mais à compter du 3 août au Québec, ce sera 250 personnes qui seront autorisées à être dans un même lieu. Donc ça inclut les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas, mais bien entendu tout en respectant les règles de distanciation physique. Bonne nouvelle pour le milieu culturel, quoiqu'il y a encore des critiques qui subsistent. On aborde ça ce matin avec Marc Gourdeau, qui est président du Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, également directeur général du théâtre Premier Acte. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour, Monsieur Gourdeau.
Bonjour.
Alors, ce matin dans Le Devoir, on voit des réactions mitigées, des gens qui disent « Ah, enfin, bonne nouvelle », comme Lorraine Pintal du Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. D'autres gens qui disent « Attendez, là, 250 personnes, c'est pas encore suffisant. Dans bien des lieux, le seuil de rentabilité, il est atteint lorsqu'on a 80 % d'occupation dans nos salles et 250 personnes, ça ne permet pas d'atteindre ce seuil-là. » À quel endroit vous situez sur ce spectre-là de perception, M. Gourdeau?
Écoutez, c'est une bonne nouvelle quand même. On sent qu'il y a une progression, qu'il y a une meilleure compréhension des enjeux de nos milieux par la santé publique. Il reste que les réserves exprimées par certaines personnes dans les médias plutôt aujourd'hui, je les partage. Une limite de 250 personnes dans une salle qui a une jauge normale de 300, 350, 400, on se rapproche de ce qui est demandé dans les bars et les restaurants, qui est un taux d'occupation de 50 %. Pour une salle de 1000, 1500, 2000, je pense à la salle Louis Fréchette au Grand Théâtre, à 1000, 1800 places ou à peu près, à 250, on est encore à un pourcentage de taux d'occupation très en deçà de ce qu'on autorise dans d'autres milieux. C'est cette espèce de... On dirait que les règles sanitaires sont un peu à géométrie variable selon les secteurs d'activité. Donc ça, c'est moi, c'est ce qui me préoccupe, c'est ce qui me préoccupe le plus là, quand je regarde ça, cette espèce de
mais c'est qu'on met un pourcentage. On met un pourcentage qui est fixe pour tout le monde, mais on ne tient pas en compte la grandeur des salles. Et donc, je me demande, dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, il y a combien de salles qui, aujourd'hui, peuvent crier victoire puis dire « Ah, c'est super, nous, on retrouve le chemin de la rentabilité. » Il y a combien de salles pour qui le 250 personnes, de toute façon, ça s'approche du maximum qu'ils pourraient recevoir en toutes circonstances?
Mais, il ne faut pas oublier la règle de distanciation d'un mètre cinquante pour les personnes assises. Et pour la plupart des salles, quand on regarde les types de fauteuils qu'on a pour accueillir nos spectateurs, qui sont souvent sont fixes, la différence entre un mètre et demi et deux mètres, il n'y en a pas. Je vais prendre l'exemple de premier acte que je dirige. On peut accueillir en temps normal 82 personnes. Avec la règle de distanciation d'un mètre cinquante, on jauge à 28.
28 personnes.
Oui.
Donc, pour vous qu'on augmente à 250, ça change rien.
Ça change absolument rien. Pour mes collègues du théâtre Périscope, l'autre côté de la rue, qui jauge normalement à 200, avec le mètre 50, ça va peut-être les amener à 50, mais même pas. Je le sais pas. Puis il faudrait qu'on puisse prévoir à l'avance. Si on savait que tous nos billets sont vendus à l'avance, puis on demande aux gens, êtes-vous seul ou en couple? Là, on pourrait disposer à l'avance, parce que s'ils sont en couple, on n'est pas obligé d'avoir le mètre 50, mais s'ils sont pas en couple, ça prend le mètre 50, parce qu'on est-ce qu'on peut le savoir à l'avance? Donc, il y a quelque chose là qui moi, ce qui me dérange, c'est ce truc à géométrie variable où, pour les salles de spectacle, les théâtres et tout, on a une approche qui est différente de celle des bars et des restaurants où c'est un pourcentage et non pas, on n'arrête pas à un nombre fixe. Et n'en déplaise aux clientèles des bars, il me semble a priori que la clientèle des salles de spectacle est peut-être par définition, surtout en fin de soirée, plus disciplinée potentiellement que la clientèle de certains bars qui n'ont pas les mêmes limites que nous.
On comprend ce que vous voulez dire. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est le fameux 50% d'occupation là. Ça devrait être aussi la norme pour les salles de spectacle et non pas que pour les restaurants et les bars, tout en s'assurant qu'on maintient la distanciation physique nécessaire, c'est ça?
Oui, parce que c'est possible, tu sais, que ça soit la distanciation physique devienne le critère et chaque salle de spectacle pourrait calculer, moi, pour être capable d'avoir une distanciation physique de 1,50 m pour les personnes assises, je suis en mesure de libérer tant de place sur ma jauge globale. Et de se fier, comme pour la plupart des secteurs d'activité, la santé publique se fie à l'intelligence et au bon vouloir des opérateurs de restaurants et de bars qui vont déterminer eux-mêmes comment répondre aux normes. Dans notre cas, nous, on nous impose encore un maximum de 250. On peut comprendre qu'à cause de notre type d'activité, tout débute et tout se termine à la même heure. Donc, il y a toujours la question de l'entrée et de la sortie. Mais on a quand même tout le monde des personnels d'accueil bien formés. On peut faire exception à partir de maintenant, plutôt que les portes de la salle où les gens peuvent s'asseoir ouvrent 20 minutes avant le début d'un spectacle. Ça ouvre une heure avant, ce qui permet de faire rentrer les spectateurs au fur et à mesure où ils arrivent dans le bâtiment. Il y a un paquet de façons de pouvoir gérer ça, tout en respectant les normes de santé publique, je pense.
Je vous écoute
donc,
parler, M. Gourdeau.
C'est plus sévère pour nous que pour d'autres secteurs d'activité.
Je vous écoute parler, M. Gourdeau, puis j'ai l'impression que dans bien des salles, même si on a augmenté le seuil de 50 à 250, il n'y a pas vraiment plus de personnes qui vont pouvoir assister au spectacle. Est-ce que je me trompe?
Il va y en avoir un petit peu plus, mais ça ne nous ramènera pas à un seuil où on va être capable de faire nos frais.
D'accord.
Ça, c'est clair. Et au final, peu importe le mode d'accueil, au final, ça va être les artistes au bout de la ligne qui vont écoper. Dans le sens où Il y en a beaucoup qui vont fonctionner en partage de recettes sur la billetterie. Donc, si on jauge à 40% ou 30% de notre jauge normale, ben, ce qu'on va partager avec l'artiste va être beaucoup inférieur. Ceux qui achètent leur spectacle à cachet fixe, ils vont se mettre dans le trou la prochaine année, puis l'année suivante, ben, ils vont avoir une capacité d'acheter moindre. Fait qu'ils vont acheter peut-être des plus petits spectacles avec moins de monde, qui coûtent moins cher. Au final, c'est les artistes et les travailleurs culturels là, qui vont, peu importe sous quel angle on le regarde, à moins qu'il y ait des programmes de compensation pour compenser les manques à gagner en fonction des jauges réduites. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas de signal que ça va aller vers là.
La situation va continuer à évoluer. Là, on le sait, les festivals, les grands événements, ça demeure interdit jusqu'au 31 août. Là, il y a ce petit pas qui est franchi par la santé publique qui va permettre jusqu'à 250 personnes dans les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas, tout en respectant la distanciation physique. Quelle sera la prochaine étape, Marc Gourdeau? On va surveiller ça attentivement, tout comme vous. Je le rappelle, vous êtes président du Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, également directeur général du théâtre Premier Acte. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
Marc-André, maintenant à la circulation. Est-ce qu'on a un Marc-André?
Oui, je suis là.
Vous aviez le doigt sur le mauvais bouton, je vous gage.
Et voilà, comme d'habitude, le petit bouton sourdine qui était actionné. On a une deuxième alarme, c'est ce que je voulais vous dire, sur la rue France-Prime à Sainte-Foy, là, entre Duchesneau et Duplessis. Il y avait le feu pris sur un balcon là au quatrième étage d'un immeuble. Alors, les pompiers sont en intervention de ce côté. Pour notre heure de pointe, je vous dirais que ça va assez bien ce matin. Pas trop de problèmes du côté de la Rive-Sud. Là, tout est fluide. Côté Rive-Nord, pratiquement tout aussi est dégagé. On a Henri IV, direction Nord, à l'approche Félix Leclerc, là où on est au ralenti. Mis à part ça, ça roule très bien. Je voulais vous parler également de rue piétonne. Il y en a plusieurs en fin de semaine. On débute par la 3e avenue entre la 10e et la 11e rue, là, de 17h à 22h ce soir, samedi et dimanche aussi. On laisse place aux piétons de ce côté, de 8h à 16h dimanche. On va tenir le marché manger Limoilou aussi. Alors, la 3e avenue va être fermée. Mais entre la 8e et la 9e rue, pour l'avenue Cartier, entre Fraser et Saunders, de 10h30 à 22h30, samedi et dimanche, là aussi, ça va être fermé à la circulation automobile pour laisser place aux piétons. Grande allée de 16h30 à 23h30. Ce soir, on va avoir droit au même scénario. Et à partir de 11h, samedi et dimanche, jusqu'à minuit samedi et jusqu'à 23h dimanche, entre des parlementaires et le Concorde, ça va être là aussi piétons. Rue Saint-Jean, rue Saint-Joseph, rue Saint-Paul, rue Saint-Vallier, en a plusieurs. Rues qui vont être piétonnes. Il y a plusieurs rues festives aussi. J'ai mis la liste sur mon compte Twitter @commercialboisvin_src. Alors, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus. Mais c'est des rues qui vont être fermées à la circulation automobile également.
C'est sorti en plein milieu de la nuit, ça, le nouvel album de Taylor Swift. Si je ne m'abuse, Patricia, êtes-vous restée debout jusqu'aux aurores?
Non. Je vous avoue que je l'ai écouté ce matin et très rapidement, il y a 16 chansons sur cet album Folklore de Taylor Swift qui porte bien son nom. On est plus dans le indie pop, dans le folk que dans la pop très dansante, exubérante de Taylor Swift qui s'est entourée de collaborateurs fort intéressants. Écoutez, on retrouve Aaron Dessner de The National qui a co-écrit 11 des 16 chansons avec elle et il a réalisé ces 11 chansons. Également Bon Iver qui a co-écrit et qui chante avec elle sur cette pièce Exile. An exile seeing you out. I think I've seen this film before. So I'm leaving out the side door.
J'ai l'impression qu'on a une Taylor Swift un petit peu plus mature musicalement.
Écoutez. Écoute, Alexandre, j'ai vraiment accroché aux premières écoutes. Celle-là, Exhaled avec Bon Hiver, elle est... En tout cas, moi, elle me plaît énormément. Elle est reconnue pour être extrêmement talentueuse, auteure, compositrice et interprète. Et là, elle me fait plaisir avec un album beaucoup plus doux. Avec, on entend bien le piano, on l'a bien entendu dans cet extrait Exhaled, dans d'autres également. C'est plus soft, donc un peu plus folk que ce que je vous ai dit tout à l'heure, la pop qu'on connaît très, très bien, qui est très efficace habituellement de Taylor Swift. Elle qui dit qu'elle même surprise d'avoir fait cet album en confinement. C'est rare que, en fait, Taylor Swift, quand même, elle nous offre des albums d'une façon régulière, mais cette fois-ci, il n'y a que 11 mois qui séparent deux albums Lover qu'elle devait présenter cet été sur certaines scènes et cet album Folklore qui est donc un album surprise, même que certains membres de sa famille n'étaient pas au courant qu'elle avait enregistré cet album durant la pandémie. Oui, elle dit, moi, tous les plans, elle a fait une publication sur Instagram où elle explique le processus. Elle dit, moi, tout est parti en l'air, bien entendu, comme tout le monde, hein, tous les projets qu'elle avait pour cet été. Donc, elle s'est attardée à l'écriture, à la collaboration avec les gens que je vous ai nommés et d'autres également pour enregistrer cet album. Elle dit, d'habitude, on travaille à savoir quand est-ce qu'on va lancer un album pour le lancer au meilleur moment. Elle a dit, là, cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec mon instinct, avec mon cœur. Et je trouve que c'est peut-être un de ses meilleurs albums. Je ne connais pas tout de Taylor Swift, je vais vous l'avouer. Mais dans ce que je connais, moi, celui-là, j'ai passé à travers rapidement les 16 chansons. Mais je peux vous dire que je vais commencer mes vacances certainement avec elle. On écoute un autre extrait de cet album Folklore, album surprise de Taylor Swift. But I knew you dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you hand under my sweatshirt, baby kiss it better. And then I felt like I was an old cardigan under someone's bed. You put me on and said I was. On a presque l'impression d'avoir un petit peu de Lana Del Rey sur cet album-là. En tout cas, peut-être un autre public qui sera touché par Taylor Swift avec cet album. Merci beaucoup, Patricia, pour la suggestion. Plaisir.
Maintenant, on va aller faire un tour en Gaspésie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Gaspésie cet été pour profiter des beaux paysages, pour profiter des bons restaurants, pour profiter du bord du fleuve, des montagnes. Sauf que, semble-t-il, que ça vient avec son lot de désagréments cette année. Beaucoup, beaucoup de monde qui ne respecte pas toujours l'environnement. Il y a des reportages qui ont commencé à sortir, vous l'avez peut-être entendu sur les ondes de Radio-Canada, des gens qui s'installent sur les plages, dans des espaces publics, des stationnements où ils ne peuvent pas camper. On parle même de litières humaines à certains endroits. Ça préoccupe le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui est avec nous ce matin. Monsieur Côté, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Duval.
Alors, on a senti dans les quelques entrevues que vous avez données jusqu'ici un peu d'exaspération de votre part. Est-ce que je me trompe?
Vous ne vous trompez pas. En fait, on subit beaucoup de pression présentement de la part de plusieurs citoyens qui sont exaspérés. Tout le monde s'en remet évidemment à leurs autorités locales qui ont les mains liées par un carcan légal qui les empêche d'agir comme ils le voudraient. Honnêtement, oui, on devient de plus en plus exaspérés parce qu'on est à court de moyens, on est à court de ressources. Les entités qui peuvent agir n'ont pas nécessairement toutes les ressources humaines en place pour pouvoir agir. Bref, on est, je dirais pas qu'on est dans un cul-de-sac, mais on approche d'un cul-de-sac. Là, on a interpellé même la santé publique pour certains endroits où ça devient vraiment problématique. Bref, on essaie de progresser. C'est une problématique qui a toujours existé, mais de façon très minimale. Cette année, c'est qu'il y a un véritable envahissement des plages qui s'est fait par des gens qui ne respectent, qui n'ont pas de souci de protection de ces milieux fragiles-là.
Monsieur Côté, est-ce que la situation actuelle, elle est attribuable à l'afflux de visiteurs plus important que d'habitude, puis au fait que les gens se sentent peut-être un petit peu libres de faire tout et n'importe quoi, ou c'est attribuable peut-être même à un manque d'offres en hébergement, un manque de place? Est-ce que la Gaspésie était prête à recevoir autant de gens?
C'est un peu de tout ça. Je vous dirais, il n'y a pas de réponse magique ou unique à tout ça. Il y a un phénomène un peu bizarre cette année là, qui est lié probablement au déconfinement, suite au confinement qu'on a tous subi là, relié à la pandémie. Donc, il y a tout ce phénomène-là qui entoure ça. Il y a le fait que au niveau de la quantité d'hébergement, il y a toutes les normes de la santé publique à suivre qui font en sorte qu'on n'a pas toutes les places requises dans les restaurants, dans les hôtels, etc. Les campings qui ont choisi pour la grande majorité de ne pas recevoir de tentes cette année en raison de toutes les procédures de désinfection de leur bloc sanitaire. Donc, les campeurs en tente ont décidé de venir quand même s'il n'y avait pas d'endroit officiel pour se loger, et ils ont décidé de s'installer partout, même sur des terrains privés, sans l'accord des propriétaires. La problématique qui est autour de ça, c'est qu'il n'y a pas d'installation septique sur ces propriétés, autant sur les propriétés privées que sur nos plages sauvages, nos plages non aménagées. Donc, les gens font leurs petits besoins un petit peu partout. Une personne, ça peut aller, mais quand c'est une centaine de personnes chaque soir, sept soirs semaine, quatre, cinq, six semaines d'affilée, bien, vous voyez, c'est la multiplication de la problématique qui se passe. Et c'est pourquoi là, on a dû interpeller la santé publique également pour obtenir leur avis là-dessus. Le ministère de l'Environnement est là-dessus également, mais encore une fois, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de ressources. La Gaspésie, c'est quelques milliers de kilomètres de littoral, et la problématique, elle n'est pas focalisée que sur deux plages de Gaspé. Elle est sur l'ensemble du grand territoire gaspésien. Donc, c'est assez problématique. Mais encore une fois, ce ne sont pas les 800 000 visiteurs de la Gaspésie qui nous causent ce problème-là. C'est une poignée de visiteurs sur lesquels on met le focus présentement. La Gaspésie est ouverte, est accueillante. On aime recevoir de la belle visite. La très, très, très grande majorité de cette belle visite-là est très respectueuse et on l'adore. Mais il y a une petite minorité d'irrespectueux qui ont débarqué cette année, qu'on n'était pas plus habitués de vivre avec eux autres. Puis c'est eux autres qui causent le tort, qui font en sorte que les citoyens sont en train de se rebeller contre l'industrie touristique. Si on veut pas ça, parce que c'est important pour notre milieu.
Ouais. Donc, c'est ces gens-là qui dérangent, et pas qu'à Gaspé, là, à Carleton-sur-Mer aussi, à Percé aussi, ces problèmes-là sont identifiés. Là, vous avez parlé de carcan légal d'entrée de jeu dans cette entrevue-ci. Que voulez-vous dire? C'est parce que vous avez pas les effectifs pour pouvoir sévir, donner des contraventions? C'est quoi le fond du problème là? Si vous avez des gens qui se servent de vos plages comme litière, comme vous avez dit, vous avez pas de moyens de sanctionner ou de sensibiliser?
Effectivement, en fait, on n'a pas de moyens de réglementer l'activité camping, en particulier sur les terres qui appartiennent au domaine de l'État. Il y en a toujours des pseudo-juristes qui vont nous dire « Ben non, il y en a quelques-uns qui le font et tout ça. » Ben, on est trop juristes à l'hôtel de ville. On a demandé l'avis d'une experte sur la question qui nous a confirmé qu'on n'avait pas de compétences légales sur les plages publiques qui sont du domaine de l'État, donc qui appartiennent au gouvernement du Québec. On pourrait obtenir cette compétence-là au moyen d'une entente de gestion, mais vous devinerez qu'une entente de gestion, ça se négocie pas en deux jours sur un coin de table. Et encore une fois, il faut avoir les acteurs autour de la table, ce qui est difficile en plein milieu de l'été et en pleine pandémie, en pleine période de vacances. C'est pas évident. On va sûrement réussir à régler la problématique pour les prochaines années, puis je ne souhaite pas la régler localement, je souhaite qu'on la règle régionalement pour que ce soit uniforme sur l'ensemble de la Gaspésie, pour pas se retrouver avec les plages à Gaspé sont encadrées, celles à Percé le sont pas, celles à Grande-Vallée le sont, qu'on devienne un peu dans un état où les gens ne se reconnaîtront pas ou ne sauront pas comment agir en Gaspésie. Donc on doit uniformiser tout ça, ce qui ajoute encore un élément de complexité. Mais bref, on a des beaux défis devant nous, là, mais sur le court terme, on a un peu les mains liées parce qu'on n'a pas le pouvoir de réglementer. Si on n'a pas le pouvoir de réglementer, on n'a pas le pouvoir de sanctionner. C'est un petit peu là où il y a le problème. Par contre, le ministère de l'Environnement a certains pouvoirs, mais ont des ressources limitées pour agir. Et leurs pouvoirs aussi sont limités. Ils peuvent pas empêcher n'importe quoi non plus sur les terres publiques.
Et là, ce que je comprends, Monsieur Côté, c'est que vous vous rabattez sur des groupes de bénévoles qui vont patrouiller vos plages pour sensibiliser un peu les gens au respect du territoire. Alors, on suivra dans quelle mesure les gens seront touchés par ces messages-là qui seront martelés. Daniel Côté, maire de Gaspé, bonne chance avec tout ça. On espère que ça se résorbera pour vous.
Merci beaucoup. On se souhaite le meilleur pour l'avenir.
Martin Boucher, maintenant un petit mot de nouvelles, s'il vous plaît.
Le Québec enregistre 142 nouveaux cas de COVID-19 dans le plus récent bilan, dont 3 proviennent de la région de la capitale. Un à l'auberge aux Trois-Pignons de l'arrondissement Charlebourg, un résident de cet établissement. Dans Chaudière-Appalaches, on compte un cas supplémentaire. Il n'y a toutefois aucun nouveau décès dans tout le Québec.
19 degrés sur la rue Saint-Jean actuellement. On s'en va au Radio-Journal dans quelques secondes. Et au retour, on discute de ce fameux dossier d'affaires du tramway qui a été rendu public hier et qui ne fait pas l'affaire de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec.
Ici Alexandra Duval. Je serai à l'animation de C'est encore mieux l'après-midi cette semaine en remplacement de Guillaume Dumas. Avec nos collaborateurs, on vous réserve des contenus informatifs, captivants et divertissants. Rendez-vous en semaine dès 15h sur ICI Radio-Canada Première.
À l'émission, résultat d'un sondage sur nos habitudes de consommation modulées par la pandémie et l'olympisme et politique.
Bien entendu, aujourd'hui 9h, Maritime 10h, ICI Première.
Vous écoutez ICI Radio-Canada Première, au 106.3, à Québec. Du cœur aux idées.
Ce matin au Radio-Journal, le climat de travail toxique à Rideau Hall, Ottawa lance une enquête. Pas assez pour certains, trop pour d'autres.
250 pour une salle de 100, 700, 800, ça demeure quand même peu de gens.
Je comprends pas d'où vient cette annonce-là. On est dans une période où il faudrait exercer une prudence la plus grande.
Québec autorise les rassemblements de 250 personnes dans les lieux publics. Et augmentation du nombre de cas de COVID-19, Donald Trump annule une portion de la Convention républicaine. Bonjour, ici Bruno Larose. Crise de nerfs, pleurs, accès de colère. L'ambiance de travail est-elle malsaine chez la gouverneure générale, comme l'affirment plusieurs de ses employés et ex-employés? Ottawa a ouvert une enquête pour vérifier ces allégations. Julie Payette les nie fermement, mais de nouvelles dénonciations se sont ajoutées. Diana Gonzalez, l'opposition réclamait haut et fort la tenue d'une enquête comme celle-là.
Oui, les néo-démocrates et les conservateurs voulaient que la lumière soit faite sur cette affaire et voilà que le bureau du conseil privé, qui est le ministère du premier ministre Bruno, lance un examen approfondi, indépendant et impartial. Et tout ça à la suite de ces témoignages d'anciens employés et d'employés actuels du bureau de la gouverneure générale. Ils font état de harcèlement et d'abus verbal. Alors le bureau du conseil privé aura recours au service d'un tiers indépendant pour mener cette enquête. Et dans un communiqué, il précise que le harcèlement n'a pas sa place dans un milieu de travail professionnel et il dit même avoir l'appui du bureau de la gouverneure générale dans sa démarche. Julie Payette a réagi sur Twitter, elle écrit, et je la cite, qu'elle prend très au sérieux les questions de harcèlement en milieu de travail et que tous les employés qui travaillent à Rideau Hall doivent bénéficier d'un environnement de travail sain et sécuritaire, et ça en tout temps et en toutes circonstances.
Et Diana, CBC a justement récolté d'autres témoignages accablants pour la gouverneure générale?
Et oui, des témoignages d'autres ex-employés qui disent avoir quitté leur emploi en raison du climat toxique. Et donc, au total, CBC a recueilli les témoignages d'au moins 16 sources anonymes. Ils font état d'humiliation, de dénigrement au bureau de la gouverneure générale, le bureau de Julie Payette qui réfute ces allégations.
Merci, Diana.
Au revoir.
Toujours à Ottawa, ce sera au tour du chef conservateur de réclamer la tête du ministre des Finances. Andrew Scheer va s'exprimer ce matin sur les relations entre l'organisme UNI, Justin Trudeau et surtout Bill Morneau. Le ministre a révélé mercredi avoir remboursé des frais de voyage de 41 000 $ à l'organisme de charité, 2 ans après et juste avant de comparaître devant un comité parlementaire. Ce scandale pourrait-il faire tomber le gouvernement? Pas pour l'instant, estime la professeure de sciences politiques à l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier.
J'ai bien l'impression qu'un parti qui voudrait faire tomber le gouvernement à ce moment-ci serait probablement aussi blâmé de provoquer la chute du gouvernement alors que la priorité est ailleurs. C'est encore la question de régler la pandémie, de relancer l'économie. Comment est-ce qu'on fait une campagne électorale aussi lorsqu'il faut faire la distanciation de 2 mètres? Aussi, les finances des partis politiques sont pas toutes bonnes. On sort d'une élection, donc il faut aussi renflouer les coffres.
Justin Trudeau va lui aussi témoigner devant le comité des finances. Sa mère et son frère ont reçu près de 300 000 $ de l'organisme depuis 2016. Une bonne nouvelle pour certains, un message contradictoire pour d'autres. Le gouvernement québécois multiplie par 5 le nombre de personnes autorisées à se rassembler dans les lieux publics intérieurs et extérieurs. La mesure entrera en vigueur à compter du 3 août. L'industrie du spectacle s'en réjouit, mais des médecins sont inquiets. Reportage, Marianne Dupuis.
Le nombre maximal de personnes permises lors d'événements intérieurs et extérieurs passera de 50 à 250 personnes. Cette nouvelle règle s'applique aux lieux publics comme les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas. Il faudra par contre maintenir une distance de 2 mètres, faute de quoi le port du masque sera obligatoire. Voici les réactions du vice-président au contenu francophone du groupe Juste pour rire, Patrick Rozon, et du président de la Corporation des salles de cinéma du Québec, Éric Bouchard.
Pour nous, c'est temporaire. T'sais, on a tous hâte, évidemment, nous et l'industrie, que ça redevienne normal. C'est un bon pas en avant.
Au fur et à mesure que les nouveautés sortiront, du moins c'est ce qu'on souhaite, parce que la situation évolue rapidement, le 250 sera bienvenu pour plusieurs d'entre nous, bien évidemment.
Le gouvernement Legault maintient toutefois la limite de 10 personnes pour les réunions dans les résidences privées. L'infectiologue Cécile Tremblay croit donc que cet assouplissement lance un message contradictoire à la population.
On dit aux gens de ne pas se rassembler dans des maisons privées pour ne pas faire de party. Et puis de l'autre côté, on dit on fait des rassemblements de 250 personnes. Alors, je ne vois pas la logique.
Québec assure que cette décision a été prise sur recommandation des autorités de la santé publique. Ici Marianne Dupuis, Radio-Canada, Montréal.
En Ontario, 7 nouvelles régions, dont celle très touristique du Niagara, passent aujourd'hui à la 3e étape du déconfinement. La population et les touristes pourront donc profiter des cinémas, des casinos, des bars et des salles d'entraînement qui ont instauré des mesures strictes pour diminuer la propagation du virus. Quelques villes plus touchées par la COVID-19, dont Toronto, devront encore attendre le feu vert de la province avant de pouvoir poursuivre leur déconfinement. Pendant ce temps, en Colombie-Britannique,
I have to say to British Columbians, come on, you're better than that. We need bigger.
Voyons, vous pouvez faire mieux, a affirmé le premier ministre John Horgan face à la montée des cas de COVID-19 dans la province. Il a exhorté la population à respecter les consignes des autorités sanitaires pour éviter une deuxième vague de contamination. 30 nouveaux cas de COVID-19 et un nouveau décès ont été recensés dans les dernières 24 heures en Colombie-Britannique. Au total, près de 3300 personnes ont contracté la maladie dans la province. Donald Trump ne sera pas intronisé en grande pompe comme candidat à la présidentielle. Le président américain a annulé la grande convention républicaine qui devait se tenir dans un mois en Floride en raison de la pandémie. La décision est conforme à sa nouvelle stratégie de communication sur la crise sanitaire, comme l'explique Loïc Loury.
Pour le président américain, il n'y aura pas de grande fête d'intronisation, un aveu d'échec terrible sur le chemin de sa réélection, plus que jamais menacé par l'épidémie de COVID-19. « Nous n'allons pas faire une grande convention publique », disait-il hier, « ce n'est pas le moment. Mon devoir », affirme Donald Trump, « est de protéger les Américains. Le timing pour cet événement », a-t-il reconnu, « n'est pas le bon ». Et de fait, la Floride a encore enregistré hier plus de 10 000 contaminations et 173 morts du COVID. Cette décision, par ailleurs, est dans la suite logique de ses récentes prises de position. Le patron de la Maison-Blanche, mercredi, en effet, a changé son fusil d'épaule du tout au tout et reconnu que la situation empirait. Quant à savoir quelle solution de repli adopter, c'est encore très flou. Les démocrates, eux, organiseront une convention presque 100% virtuelle pour investir leur candidat, Joe Biden, donné favori à bientôt 100 jours de la présidentielle. Ici Loïc Loury à New York pour Radio Canada.
COVID-19 toujours depuis ce matin en Angleterre. Il est obligatoire pour tous les citoyens de plus de 11 ans de porter un masque dans les lieux publics intérieurs, comme les magasins, les banques, les bureaux de poste, entre autres. Les contrevenants sont passibles d'une amende d'environ 200 $. La Grande-Bretagne détient le triste record des pays d'Europe avec plus de 45 000 décès dus au nouveau coronavirus. Et cette crise chamboule un autre pan de l'économie. Chaque année au Canada, plus de 4000 personnes échangent leur force de travail contre une formule logée et nourrie, communément appelée le woofing. Mais en raison de la pandémie, plusieurs entreprises qui dépendent de cette main-d'œuvre bon marché, voire gratuite, ont maintenant du mal à y avoir accès. Alexis Gacon.
Véronique Alexandre accueille des woofers dans sa pépinière de Radon depuis 7 ans. Elle en a déjà hébergé près de 300.
Au départ, c'est sûr que l'entreprise était plus petite, fait que ça nous permettait de faire beaucoup plus de projets avec des... On n'aurait pas pu payer des salariés pour faire ça à ce moment-là. C'est pas facile en agriculture quand même de se trouver des salariés. Fait que le woofing, pour nous, c'est vraiment... Oui, ça apporte une main-d'œuvre. C'est surtout de donner l'expérience, surtout à des jeunes qui veulent vivre une expérience différente, qui veulent visiter un pays sans avoir à payer tous les frais d'hôtel.
Cette année, avec la pandémie, ceux qui comptaient venir ont dû annuler, car les services frontaliers
Italiens ne considèrent pas leur venue comme un motif essentiel pour entrer au pays. Généralement, Véronique Alexandre en accueille une dizaine, mais sans eux, cette année, elle doit mettre certains travaux sur pause.
Ben, on en avait plein de planifiés à partir du mois de mars, qui là, ben, tranquillement, ça l'a annulé. Certains, il y a des projets qu'on aurait aimé faire qui se feront pas cette année. Par exemple, des agrandissements de vergers, des plantations.
Carole Rideforger est propriétaire de la ferme Cabru en Montérégie, qui fait travailler chaque année des woofers. Face au manque de main-d'œuvre, elle aurait voulu que le Canada leur ouvre ses portes.
C'est problématique, parce que ça devrait être beaucoup plus reconnu que ça. C'est mondial, hein. Ça fait des années, là, que ça existe. Et nous, en ce moment, on est brûlés, là. On est deux dans le champ. Comme on est juste deux, on a dû abandonner des récoltes.
L'organisme Woof Canada dit travailler pour que le woofing soit considéré par Ottawa comme un service essentiel, mais pour l'instant, sans succès. Ici Alexis Gacon, Radio-Canada, Montréal.
Voilà, c'était le Radio-Journal, oui. Alors, sachez que vous pouvez obtenir notre flash info, 2 minutes des principales nouvelles, 2 fois par jour, sur votre assistant vocal. Voilà, bonne journée, dans un petit moment, votre émission du matin.
Vendredi 24 juillet, vous écoutez Première Heure sur les ondes du 106.3. Merci d'être avec nous. Dans les prochaines 50 minutes, on parlera à l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec, le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, qui n'est pas satisfait visiblement de ce qu'il a vu hier dans le dossier d'affaires du réseau de transport structurant qui a été rendu public par le BAP. C'est un document qui date de plus de 6 mois maintenant, un document de décembre 2019, avant les grandes modifications au projet de transport structurant, notamment le rejet du trambus. Alors, on parle... C'est un document qui date de plus de 6 mois maintenant, un document de décembre 2019, avant les grandes modifications au projet de transport structurant, notamment le... De plus de 6 mois maintenant, un document de décembre 2019. De plus de 6 mois maintenant, un document de décembre 2019. Encore un peu plus.
Eh oui, vous êtes dans l'émission GFP en direct ce soir. Bien sûr, ce matin, j'étais occupé. Comment allez-vous? C'est une belle fin de semaine qui s'annonce. Belle fin de semaine, la construction pour bien des gens qui sont en vacances. Et c'est le temps du plein air, d'en profiter. Avec les meilleurs succès radio de tous les temps, la COVID-19, on arrive à 15 500 000 de tranquillement pas vite à travers le monde. Tout ça et bien d'autres choses avec de la bonne musique. On se détend, on se décontracte, c'est les vacances, c'est le vendredi soir, c'est le 24 juillet 2020, avec Georges Fernand Poirier au microphone avec vous qui vous accompagne jusqu'à 18h.
Choice.
D'où que vous soyez sur la planète, je vous salue en ce beau vendredi soir. Avec une canicule pas à peu près. N'oubliez pas de boire de l'eau ou prenez, débouchez-vous une bière ou n'importe quoi. Ça prend du liquide avec une température semblable. Avec, c'est, vous diriez de ça si on écoutait un bon hit. Je pense que c'est dans le milieu des années 80. Souvenez-vous de ça, c'était un hit numéro 1 radio. Dans les discothèques, 12 pouces envoyés par là, avec Michael Jackson. Ça vous tente de bouger, là, c'est le temps, là. Faut être en forme, faut bouger. Bouger, c'est la vie.
Keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like that. We'll be right back.
Vous êtes dans l'émission GFP en direct. Et comment ça va vous autres ce soir? Ça va bien? Hey, il faut tout le temps respecter, il faut tout le temps pas oublier de se laver les mains. C'est bien important. Le lavage des mains, là, c'est bien beau porter un masque, là, mais le lavage des mains est important. C'est pas long, puis ça prend pas de temps. C'est une des bonnes habitudes à prendre. Ce qui se passe sur la planète actuellement, il y a les Russes qui font des tests avec qui envoient des satellites, tueurs de satellites. Donc, il va y avoir une réunion dans 2 jours, je pense, en Europe, il va y avoir une réunion où les partis vont également parler de désarmement nucléaire, parce que on sait que la course aux armements nucléaires est quasiment recommencée. C'est pas jojo trop, mais on est rendu là. Alors, ce qui va arriver, c'est que, cette réunion-là va décider de, est-ce que ce programme-là va devoir arrêter? Le nombre de missiles, est-ce qu'on va s'entendre il y avait une entente de signer, est-ce qu'on va prolonger l'entente qui était signée? À savoir de pas trop augmenter le niveau d'armement de bombes nucléaires à travers la planète. Il y en a déjà pas mal. À part ça, qu'est-ce qui retient l'attention? Il y a un bon article dans Le Devoir aujourd'hui de l'agence France-Presse. Seuil des 4 millions de cas de COVID-19 franchis aux États-Unis. Cap de 3 millions dépassés en Europe. La progression de l'épidémie inquiète aussi en Asie et en Australie et contraint de nombreux pays à durcir les mesures sanitaires. Au moins 631 811 personnes sont mortes de la COVID dans le monde, pour plus de 15 millions d'infections, selon un bilan établi jeudi par l'AFP. C'est sur le continent américain que la situation reste la plus préoccupante. Un peu plus de 2 semaines après avoir franchi le cap des 3 millions d'infections, les États-Unis ont dépassé ce jeudi celui des 4 millions de cas officiels, selon l'université Johns Hopkins qui fait référence. Le seuil des 4 millions de cas a été franchi en Amérique latine et aux Caraïbes, où, à lui seul, le Brésil compte désormais plus de 2,2 millions de cas. En raison de la propagation de l'épidémie, la Bolivie a annoncé le report au 18 octobre des élections générales prévues le 6 septembre. En Europe, la région a officiellement déclaré 3,788 cas de COVID-19 pour 206,714 morts. Le masque s'impose face à la recrudescence des contaminations. Le port du masque devient obligatoire dans certaines zones. En Australie, qui avait jusqu'à présent réussi à contenir l'épidémie, l'État du Victoria Sud, dont Melbourne est la capitale, a encore enregistré jeudi 422 nouvelles contaminations. Les habitants de Melbourne sont tenus depuis jeudi de porter un masque, même chose à Hong Kong, mais aussi en Autriche où le port du masque est redevenu obligatoire dans les supermarchés, les banques et les postes. En Belgique, le masque sera obligatoire à partir de samedi sur les marchés, les brocantes et dans les rues commerçantes, même chose dans les hôtels, les cafés et les restaurants, sauf à table. Après de longues hésitations, l'Angleterre a, elle aussi, décidé de rendre le masque obligatoire dans les magasins et les supermarchés à compter d'aujourd'hui. Aux États-Unis, qui sont loin les plus endeuillés au monde en valeur absolue, avec 144 000 décès, le port du masque est obligatoire à Washington. Longtemps accusé de déni, face à la pandémie, le président américain a récemment admis une hausse inquiétante des cas dans le sud et le pays a d'ores et déjà massivement précommandé un futur vaccin, 100 millions de doses. Donald Trump a d'ailleurs annulé jeudi la grande convention républicaine prévue à Jacksonville, en Floride, pour l'introniser comme candidat du parti à la présidence de novembre. Plusieurs pays ont, eux, choisi de réimposer des confinements partiels, ainsi que les quelques 10 millions d'habitants de Tokyo qui ont été invités à rester chez eux à partir de jeudi, premier jour d'un long week-end férié au Japon. L'Inde est également résignée à ordonner au Cachemire un confinement strict pendant au moins une semaine à la résurgence du virus. Les autorités indiennes ont aussi décidé d'annuler le pèlerinage hindou annuel de l'Amarnath, une première en plus d'un siècle. L'Afrique du Sud a enregistré une hausse de près de 60% du nombre total de décès naturels au cours des dernières semaines, laissant les spécialistes penser que le nombre de décès liés au COVID-19 est beaucoup plus élevé que n'indiquent les statistiques officielles. Le président a annoncé jeudi une nouvelle fermeture des écoles publiques pour une durée d'un mois. L'Afrique du Sud figure à la cinquième place dans le monde pour le nombre de cas confirmés et abrite plus de la moitié de tous les cas en Afrique. La tempête du coronavirus est effectivement arrivée, a déclaré Cyril Ramaphosa. Dans le pays, le virus a fait plus de tables rases, de rites funéraires. Les croque-morts ne sont plus en noir, mais avec des tenues de protection jaune vif. Et pour les familles, ni poignées de terre rouge jetées sur le cercueil, ni fleurs. Elles sont tenues à distance des défunts qui sont rapidement inhumés. À New York, l'ONU a appelé à porter secours aux quelques 3 milliards de personnes les plus pauvres de la planète qui resteront à l'écart des plans de relance pour les grands marchés et grandes entreprises. Alors, je voulais voir un petit peu ce qui se passait sur la planète, fait qu'on a partagé ça ensemble. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux.ca, la radio indépendante en direct du centre-ville de Québec.
Sur radio.fiatlux.ca. Presse. Un peu, j'ai envie de loin. Dis-moi ça. Radio. Radio.fiatlux. Ouais, mais en Italie. .tk.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. Sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Down.
assez simple, ni tout à fait les mémoires d'un trimpe. Juste une petite toune ben ordinaire pour vous raconter tous mes déboires. Mon père est un caporal dans la police. On peut pas dire qu'on était ben complice. Ben je fumais du pot pis je dropais de l'acide. Mon sacré doigt, j'étais juste un kid. Je me suis ramassé à l'école de réforme. Pas le doigt de sacré, pas le doigt de manger de la gomme. Ils ont essayé de me faire porter l'uniforme, mais ça va marcher, j'suis toujours un bon. À 18 ans, j'suis parti sur le chemin. Rien dans les poches, rien dans les mains. J'ai essayé toutes sortes de boulots. J'ai été shipper, vidangeur puis cuistot. J'ai eu une job dans une shop de basic. Mon sacré doigt parce que j'étais trop beatnik. J'prenais mon temps pour rouler mon joint. Puis j'aimais pas ça me lever de bonne heure le matin. C'était pareil comme à l'école de réforme. Pas le droit de sacré, pas le droit de mâcher de la gomme. Ils voulaient que j'sois une autre copie conforme. Mais ça va marcher, j'suis toujours un bon. Toujours un bon. Chic restaurant populaire. J'passe la mop pis j'débarrasse les tables. J'fais ma petite affaire pis j'suis rendu stable. C'est ben plus le fun, c'est ben plus simple qu'une job straight de 9 à 5. J'suis peut-être pas riche mais au moins j'me débrouille. Pis le soir après la job quand j'ai serré ma vadrouille, j'en prends une coupe de bière avec mes chums. On se raconte nos histoires d'école de réforme. On rit de ça pis on a ben du fun. Pis à quelque part je le sais, j'serai toujours un bon. 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 Toujours un bon.
Les arrangements musicaux sont bons là-dedans, hein? Pas à peu près, hein? Pas de joke. Avec Steve Faulkner, toujours un bum. Mais il y a aussi délinquant, c'est un petit peu moins pire. C'est délinquant un petit peu, tu sais. Mais tu sais, dans le temps, dans les années 70-80, le monde, il y en avait un maudit paquet de délinquants dans ce temps-là. Le monde se promenait avec une grosse bouteille de bière entre les deux jambes. Puis la police passait, puis tu montrais ta bière à la police, prenais quasiment une gorgée à la santé de la police. Pas de farce. Ça se passait comme ça. Puis, tu sais, en autant que tu conduisais pas croche, tu te faisais pas arrêter, puis c'était pas sévère pantoute. Tu sais, c'est pas évident, là, comment est-ce que ça peut changer, comment que ça peut changer. Mais c'est vrai qu'il y avait moins d'auto. Il y a aussi ce facteur-là qu'on n'a pas pensé. C'est que dans ce temps-là, il y avait moins d'automobiles qui se promenaient sur la route. C'était pas mal plus tranquille qu'à cette heure. Puis il y avait beaucoup de routes qui n'avaient pas... que c'était de la, c'était, il n'y avait pas d'asphalte. Là, c'était, il n'y avait pas d'asphalte. C'était tout simplement des routes de gravelle. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux.tk. On va écouter un petit bout de Steve et on revient en musique.
Le long du chemin, m'en vais finir par t'attraper dans le détour. Mon grand cheval noir d'amour. Et t'auras beau hennir, t'auras beau ruer, t'auras beau courir, vouloir aller te cacher, les cafards, leur grand coup de l'osso, m'en va faire voir ce que c'est que le rodéo. Le long du chemin,
je joue mon blues le long du chemin. We'll be right back.
pas ce qui se passe cette année.
Eh oui, Marjo, vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. Qu'est-ce qui se passe de bon dans l'actualité? Ben, il y a des touristes qui sont, imaginez-vous donc, qui sont irrespectueux, qui vont visiter la Gaspésie. Cet été, provoquant une situation de crise dans la région, dénonce la députée péquiste de Gaspé, Megan Perry-Melançon. Malheureusement, on a un type de clientèle qui vient faire de l'ombre à la saison, a affirmé vendredi la porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de tourisme sur Cube Radio. Alors, certains touristes qui font du grabuge passent la nuit debout sur les plages à faire la fête et laissent les lieux dans un état lamentable. Fait que j'espère qu'ils apprennent à vivre un peu, là. Mais tu sais, ça fait des années qu'on donne plus de cours de bienséance dans les écoles. C'est pas nouveau, là. Autrefois, en tout cas, moi, quand j'allais à l'école, on donnait des cours de politesse, de bienséance, savoir comment se comporter avec les autres, respecter les autres, être poli, apprendre comment manger, comment tenir sa fourchette, puis pas saper en mangeant, puis garder le silence, là, laisser les plus vieux parler. Tu sais, c'est toutes des petites affaires qui ne sont plus enseignées. Alors le respect aujourd'hui, garde. C'est le téléphone cellulaire, puis ça finit là, tu sais, c'est l'individualisme. C'est triste à dire, mais c'est un petit peu ça qui se passe. Alors, en Gaspésie, puis il doit y avoir du monde. Je pense que moi, je n'irai pas là, il y a trop de monde, il y a trop de trafic. Puis tu dois faire le pied de grue à attendre avant d'avancer, imagine-toi donc, puis le gaz que ça doit coûter, là, parce que le moteur vire, l'air climatisé, puis envoyer donc. Alors, c'est pas évident. À part ça, dans le monde entier, les chiffres ne cessent de grimper. On est rendu à 15 628 936 cas, avec 636 262 décès, 58 243 au Québec. Alors, c'est pas évident. Il faut être prudent sur les cours d'eau. Il faut être prudent aussi quand on se promène en embarcation de mettre sa ceinture de sécurité. On ne dira jamais assez. Éviter les endroits dangereux, comme les roches plates, ces genres d'endroits-là, où il y a des noyades tout le temps. Il y en a qui essayent de faire le frais, puis le bon pour aller là, mais à un moment donné, il y a eu plusieurs morts depuis des années, qu'il y a tout le temps une noyade ou deux dans ce coin-là, les roches plates. C'est beau à regarder, mais évitez de vous baigner là. C'est pas compliqué ben. À part ça, vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. Il y a eu un gros accident sur l'autoroute Henri IV. Alors, si vous passez par là, peut-être que vous êtes mieux de détourner, de suivre un petit peu ou composer le 511 pour avoir la Ville de Québec, là, vont vous donner des informations. Alors, sur l'autoroute Henri IV, entrave majeure sur l'autoroute, il y a un camion qui a foncé dans un mur, puis bon, la marchandise s'est répandue sur la route, donc la route est fermée. Alors, vérifiez ça si vous avez à passer dans ce coin-là. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux dans l'émission GFP en vacances. De Kraftwerk, ça fait changement. Hein? Il y a de la musique variée. Moi, j'aime ça, la versatilité. C'est le fun de regarder les créations passer. C'est ça, Radio Fiat Lux, dans le fond, on voyage dans le temps en musique. Ça, c'est un de leurs premiers, disques qui est sorti. Moi, je l'ai acheté tout de suite quand il est sorti. La qualité d'enregistrement de ce disque-là, c'est quelque chose. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux dans GFP en vacances. Portez-vous bien, la météo. C'est pas si pire, c'est des passages nuageux. De la pluie pour dimanche. Les nouvelles, ben, on en a parlé, on a brossé le petit tableau là, assez vite. Espérons que tout le monde va garder son moral, même s'il y a une deuxième vague qui pourrait s'en venir. Va falloir l'accepter, puis bon, pas la fin du monde. Imaginez-vous que les moines, ils ont été confinés pendant des siècles, puis ils réussissaient à vivre quand même. Puis ils le sont encore. Il y a certains monastères dans le monde que c'est encore c'est du confinement. Donc, il s'agit de s'adapter, puis bon, on prend des marches, puis il va falloir s'adapter, puis accepter qu'est-ce qui pourrait s'en venir.
Je vous ai croisé, vous ne m'avez pas vu, et je vous ai suivi dans la nuit. Vous avez couru tous les deux sous la pluie, charmé par les parfums de minuit. Je suis l'espion, attention. Je viens parmi vous semer la confusion. Je suis l'espion. Je vous ai filé dans les rues de la ville, aveuglé par ma curiosité. Vous avez monté à son appartement, rayonnant comme un soleil dément. Je suis l'espion, attention. Je viens parmi vous semer la confusion. Je suis l'espion. Je suis
en direct du studio B sur la rue Saint-Jean, vous écoutez GFP en direct en vacances et passez des belles vacances avec les meilleurs succès radio numéro 1, web radio numéro 1 à Québec.
I never told the soul.